radio, c'est Marceau. Marceau le midi.
Hey, salut, bon mardi. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous profitez du beau temps. C'est plein soleil à l'extérieur. Pascal qui est arrivé ici comme s'il faisait moins 20 dehors.
Oh, t'exagères. Six en t-shirt, spots. En pantalon léger et avec une casquette.
C'est un genre de quoi? 18 degrés comme température qu'on a à l'extérieur dans la grande région de Québec. Maximum de 23 pour aujourd'hui, un ciel dégagé pour ce soir, minimum de 11. Demain, mercredi, c'est Cancun. Maximum de 28 avec humidex, température ressentie de 33. Jeudi, ce sera nuageux avec des probabilités d'averse à 60%. Maximum de 26 et vendredi, ce sera ensoleillé avec un maximum de 26 degrés. Salut le gars que j'ai vu malheureusement se planter en trottinette. À matin,
ow!
Il descendait, il était dans le secteur de Wendake, puis il descendait la côte, là, je ne me rappelle pas comment ça s'appelle, cette côte-là. Mais bref, il s'est planté solide.
Tu n'as pas porté secours.
Puis il s'est relevé comme si il ne voulait pas se faire voir par personne.
Je comprends. Avait, c'est honteux.
Il était bien équipé, il avait son casque à la tête, il avait tout son équipement, ses petits gants, mais il a pris une débarque. Ce n'est pas toutes les trottinettes qui peuvent rouler, je pense, sur les chemins qu'on a ici au Québec.
Ben, c'est parce que les nids de poules, tu en as un peu quand même partout. Je ne sais pas si c'était sur la route ou sur la piste cyclable aussi. Je veux dire, le rembarquer sur le trottoir, des fois, tu penses que c'est doux et léger, mais non, on a un pouce ou deux de différence avec l'autre dénivelé. Pour en avoir fait beaucoup l'été passé, faut pas pousser sa trottinette au fond.
Ouais, j'ai essayé la petite trottinette à un de mes gars, puis j'ai pas trippé. Comme j'ai pas trippé, je suis un gars qui fait de la moto depuis mes 16 ans.
Ils sont sortis là, aujourd'hui, les motocyclistes.
Un moment donné, dans un party, il y a un de mes chums qui avait amené son scooter. Puis j'ai failli me tuer avec son scooter, puis je devais rouler à 30 km/h. Ça se conduit pas pareil.
En ayant fait la moto.
Oui, c'est ça. Je pensais qu'un scooter, ça se conduisait comme une moto, mais pas pantoute.
Ben, les roues, faut que tu fasses attention. Tu peux pas prendre les tournants de la même manière. Ouais. Ça glisse plus.
C'est ça. Puis les gens peuvent. Tu sais, si t'as pas conduit une moto sur la route, tu peux pas comprendre que pour tourner à gauche, faut que tu pousses avec ta main gauche pour débalancer ta moto.
Pas ton scooter.
Mais les gens. J'avais essayé.
T'as-tu fait ça?
Oui, c'est dans le parc industriel proche de où est-ce qu'ils ont bâti le IKEA. Là. Puis, écoute, j'ai failli me tuer.
Je pense que pour vrai, il y a juste les motocyclistes qui comprennent ce que tu es en train de dire. Mais moi, je trouve ça quand même drôle parce que ton guidon, là, c'est comme un guidon de vélo sur un scooter. Moi, ce qui m'a donné envie d'avoir une moto, c'est mon scooter quand j'étais jeune. Sauf que, tu sais, je veux dire, il ne pleuvait pas de l'argent sur notre terrain comme d'autres. Donc, mon scooter, c'était pas les B-Wiz qui étaient bien, bien populaires, soit les scooters avec les deux lumières rondes en avant, avec des roues assez larges. Je salue le père de mon ami qui nous écoute parfois. S'il est là en ce moment, il se bidonne dans son camion de livraison, là, parce que mon scooter, je l'ai beaucoup aimé, mais la roue était aussi large qu'une roue, mettons, de vélo de montagne. Okay? Puis, c'était un AVO de Honda. Super en ordre, jusqu'au moment où il est arrivé des petites pacotilles, parce que je te rappelle, j'ai 8 ans de différence avec ma sœur la plus vieille, donc elle l'a utilisée, elle. Fait que là, calcul, mettons, 8 ans de différence avec moi, je l'utilise.
Ouais.
À un moment donné, moi, tout est arrivé, j'ai tellement planté en scooter, ça avait plus de sens. Ma mère, peut-être pour ça que mes parents se sont séparés, parce que mon père poussait pour que je continue de l'utiliser. Mais à un moment donné, je monte la côte à l'Ange Gardien. Tu sais, la grosse côte ou l'église, je sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un, est quand même à pic, puis toute ma chaîne, ma courroie là, de plastique, on dirait qu'elle était tellement sèche qu'elle a éclaté. Fait que là, je me suis plantée dans le sable, je me suis plantée, je te le dis, en scooter au moins 4-5 fois.
T'as pas-tu connu les scooters où il fallait que tu pédales pour les partir?
Non, ça, j'ai pas eu ça. J'ai pas connu ça non plus.
Et nous autres, là, c'est dans le secteur Beauport, sur Monseigneur Gauthier. On avait un de nos chums qui avait ce fameux scooter où il devait... Pas scooter, mais cette fameuse mobilette où il devait pédaler pour après ça... faire partir sa mobilette. C'était n'importe quoi, mais ça fonctionnait. Puis le bruit était épouvantable.
Non, mais tu sais, je te parle de la côte de l'église à l'Ange Gardien, là. Je te parlais de la côte du côté de Bois-Châtel. L'énorme côte pour que quand tu montes puis tu vires à droite vers l'Ange Gardien, tu vires à gauche vers le nouveau IGA et tout ça, vers les chutes de Montmorency. Monter ça avec mon scooter, Yannick, j'étais genre à 15 km.
Dans le fond.
Je pouvais marcher à côté puis aller plus vite.
T'as-tu déjà risqué ta vie, toi, avec ces petites bebelles-là? Moi, j'ai risqué ma vie en rollerblade.
Ah non, moi je... Non, je sais pas en faire.
418-971-1021, c'est quoi les fois où vous avez risqué votre vie? Je devais avoir 12, 13, 14, 15 ans, puis je prenais Côte-du-Palais en rollerblade, puis en bas, t'as des courbes.
Non.
Fait qu'à chaque fois,
toi, sûrement, t'avais un casque et des protections.
Ouais, j'ai fait Côte d'Abraham aussi. Puis mettons, il me semble qu'à l'époque, la Côte d'Abraham était plus à pic que ce qu'elle est là.
En rollerblade, à l'époque ou pas, est plus à pic.
Non, mais ils l'ont adapté parce qu'avec les immeubles et tout ça, ils ont changé un peu la pente, là. Mais j'avais fait Côte du Palais en face du Ronald McDonald sur Saint-Jean. À Descend-Raide.
Oh, t'es fou.
Puis après ça, j'avais été appelé pour travailler à Lévis. Puis là, j'avais pas de moyens de transport à 14-15 ans. Fait que j'étais parti du quartier Saint-Roch en rollerblade. J'avais pris la croisière Sameuse Québec-Lévis. Puis après ça, à la sortie,
ça t'a marqué.
J'avais monté une côte qui était immense pour aller chercher Guillaume Couture.
Ah, c'est celle où il y a le bar aussi en haut. Hein. Je sais.
Je sais pas, mais je sais que dans le bas de la côte, il y a un gros parc. Là.
Mm.
Okay. Fait que je me suis dit, je vais reprendre cette côte-là pour descendre, puis je vais la faire en roller, ça va être malade.
Et là, je répète parce que ça a passé dans le beurre, mais t'avais sûrement un casque, des protections, te connaissant. Là.
Selon la légende, non. Mais j'ai descendu cette côte-là, puis Pascal, les dix premières secondes, c'était vraiment nice parce que je me disais, hey, c'est la première fois que j'atteins cette vitesse-là en rollerblade.
Oui, super. C'est rendu instable, dans le bas, ça fait pas de sens.
Rendu dans le bas de la côte, là. Techniquement, t'es supposé de faire un stop si t'es une voiture, mais en rollerblade, tu peux pas faire de stop parce que tu descends tellement vite que c'est impossible.
Mm-mm.
Fait que déjà, j'avais prévu que j'allais pogner une méga plonge sur le gazon.
Mm.
C'était en plein jour.
C'est ça que t'avais spoté pour t'atterrir.
Il devait être à peu près 15h l'après-midi, il faisait super beau, il y avait des gens qui se faisaient bronzer. Puis je dois avoir glissé sur le gazon, là. Pas loin de 20-25 pieds.
J'espère vraiment que des gens ont vu, parce que quand tu te plantes de cette manière-là, il faut absolument que ce soit vu, sinon tu fais ça pour rien.
Ben comme le gars, qui
en
est à matin que c'est
oui,
en trottinette.
Il va-tu bien, on le sait-tu?
Ah, oh, il se relevait assez vite.
Ouais, mais par contre.
C'est vraiment des petites gales.
C'est comme moi l'année passée, là, la saison des à vélo est recommencée. Tu te rappelles quand je t'arrivais les genoux en sang ici? Je veux dire, après ma plonge, là, je m'étais relevée vite, mais je riais puis je me disais, faut que quelqu'un ait vu ça. Là. Et j'avais jamais en ça tout l'été. Là. Sûrement que ça va recommencer. Je me suis pas relancée dans à vélo, mais clairement, avec un GPS, c'est pas l'idée du siècle.
Non, il s'est tué avec un à vélo en 2023.
Ouais. Non, c'est l'été passé, non?
Mais ça, c'est 2023. Il y a un rapport du coroner qui est sorti. Puis là, ça dit que le gars, il avait un traumatisme au niveau de l'estomac là, dans ce secteur-là. Puis au niveau de la tête, t'as un traumatisme crânien, complètement sous à 4 heures du matin sur un à vélo. Puis il a pogné une drop de genre 1,5 m, 2 m. Puis malheureusement, il était avec un de ses chums. Son chum a tenté d'essayer de le réanimer, puis il était déjà magané avant qu'il embarque dans la blanche.
C'est l'autre monsieur là, qui avait pris un genre de ralentissé sur une piste cyclable là, en pleine nuit, puis qui avait tombé, puis qui s'était blessé que j'avais en tête. Fait que tu sais, on est à 2-3 histoires de ça. Mmh. Soyez prudents, parce qu'avec la vitesse, faut faire attention. Hey, là, il y a des histoires qui rentrent. Yannick, des gens qui disent « Première année du primaire, j'ai essayé de rattraper une voiture en trottinette en métal. J'ai pogné une roche, j'ai tellement volé, je me suis cassé le poignet. » Tu sais, des histoires de jeunes par rapport. Quelqu'un qui dit « Hey, le scooter, à quel âge on devrait l'autoriser pour nos ados? » Moi, je l'ai eu dès que j'avais 14 ans. Faut savoir que je vivais dans Trou-Trou, l'Ange Gardien.
Ouais, mais c'est 14
l'endroit
ans.
Où il n'y a pas d'autobus.
C'est 14 ans, le scooter.
L'endroit où t'achales tes parents pour faire de quoi? L'endroit où il n'y a pas de travail, fait qu'il faut être, tu sais, ça a été une révélation, sauf que je me rappellerai toujours, puis ça a changé, je pense. C'était qu'un test théorique pour avoir ton permis dans mon temps. Mm-hmm. Maintenant, il y a le pratique. Sauf que mon théorique, là, si tu ne pognes pas toutes les questions, tu n'évalues pas sur toute ta compréhension du code de la route.
Ouais.
Puis tu arrives des fois sur l'avenue La Rue, à Beauport ou autre, puis moi, le clignotant, la lumière verte qui clignote, le réservé, là, je l'avais pas saisie. Je pensais quand elle était verte, c'était à moi. Donc, quand elle est tombée verte, puis qu'il y a une voiture qui voulait aller tout droit, puis je voulais tourner à gauche, j'ai 14 ans. Je le savais pas. J'aurais pu me faire tuer. Fait que je suis vraiment contente que maintenant, ça soit un petit peu plus élaboré pour les tests, parce que si tu saisis pas tout, à cet âge-là, c'est normal. Tu sais, ton gars, il a quel âge, le plus vieux, là?
Mon plus vieux, il va avoir 12 ans, puis okay. L'autre a 9 ans.
Prends-lui 12. Dis-toi, 2 ans plus tard, il est sur un scooter. Tout seul.
Mm-hmm.
Il parcourt, tu sais.
Ouais. Mais c'est un beau son.
C'est pas qu'il va pas se débrouiller.
Ça conduit des 4 roues à 3-4 ans.
Oui, ouais. Mais c'est pas dans la conduite, c'est dans la compréhension de tout ça. Ouais. Puis, tu sais, des jeunes.
Après ça, on était dans le secteur de Beauport. Il y avait une carrière qui s'appelait la carrière Véro à l'époque. Je sais
c'est
pas si elle existe encore. Là.
C'est celle où le Tim Horton en arrière. Là.
Il y en a 2 ou 3 carrières à Beauport. Moi, je parle plus celle qui est située en arrière de l'ancienne Arena du Fort qui est maintenant. qui a changé de nom, là, son nom va me revenir. Là.
C'est pas Marc
Simoneau. Marc Simoneau. Mais en arrière de ça, il y a un gros trou, c'était les carrières Véro, puis les camions ne pouvaient pas monter tout de suite dans la côte. Il fallait qu'ils aillent chercher une côte un peu moins à pic. Mm. Puis ça, nous, on le savait. Fait que ça, on avait affaire à l'école secondaire à Saint-David, à l'école
Saint-David.
Sur la rue Saint-David, à l'école Samuel de Champlain, parce que nos chums se tenaient là,
ouais.
Les petits bums se tenaient là. Ben, on, avec nos skates, ben, on s'accrochait comme Michael J. Fox dans Back to the Future.
Ah, mais ça, là.
On s'accrochait après les gros, les grosses bétonnières, puis on montait la côte avec eux autres. C'était, tu sais, aujourd'hui, tu fais ça en 2025.
T'accrochais, c'est bétonnière.
Oui. Aujourd'hui, tu fais ça en 2025, la police t'arrête.
Mais ben, j'espère.
Nous autres, on riait un beau coup.
Ben, les skates aussi, il y a eu des gens de panoplie de jeunes bums là, qui tripaient à dos. Là. T'es quelqu'un qui nous dit en skate, un trio d'ados pour faire un film de skate. Un film qui a passé au grand écran, Jérôme. En haut d'une colline, on a vu un manhole. J'ai tenté de sauter par-dessus. Finalement, j'ai rentré dedans. Résultat, fémur, cassé, commotion cérébrale, quatre côtes fracturées. Tu sais, les histoires, là. J'ai risqué la vie de mon grand frère en motoneige, lui derrière avec des skis de fond très longs. Tout allait bien jusqu'à temps que j'arrive au bout du champ puis que je fasse un U-turn, l'effet de fouette de la corde. Il s'est pété la gueule solide. C'est ce qu'on reçoit par texto. T'sais, tout le monde nous raconte un peu leurs histoires de jeunes, que tu penses pas à ce que tu fais, mais quand même. Des skates qui s'accrochent aux voitures, ça rentre beaucoup. Tes côtes aussi en rollerblade.
Mais ça, c'est Michael J. Fox qui nous a mis ça dans la tête.
Ouais, hein. Ben, il pourrait aussi mettre le fait dans la tête aux jeunes que c'est des cascades faites par des professionnels encadrés.
On était très influencés.
Hey, mais rollerblade, non.
Exact. Un gros merci aux gens qui nous ont écrit des messages. On va tous lire ça dans les prochaines minutes. Juste avant, est-ce quelque chose qui t'a marqué dans l'actualité, mis à part l'histoire de Mario Pelcha?
Ah ouais, ben il va pouvoir... Ben, il peut pas faire ses spectacles sur, sur son vignoble et sa terre, mais il va continuer de le faire. Ça, c'est un bum. Parlant de la catégorie des bums, Mario Pelcha en est un. Ce qui m'a marqué aussi aujourd'hui, c'est la nouvelle chanson de Nicolette Chicone, aussi médiocre que ses dernières qui est sorti, mais ça, c'est vraiment une opinion personnelle. C'est violent, mais c'est doux, mais violent.
Mais t'aimes pas ça?
Ben, moi, je t'aime tout court, puis Bella Ciao, j'ai aimé ça.
C'était quoi sa nouvelle toune?
Tu l'as-tu devant toi?
Le pouvoir des chansons?
Non. Elle est en anglais, parce que je vais te le ressortir. Mais c'est le dernier album, veux-tu aller là pour vrai? Je me sens méchante.
Mais pourquoi tu m'en parles, ce prochain-là?
C'est là, c'est celle-là.
Crazy
ça,
Over
c'est
You?
Ça, oui, c'est sorti aujourd'hui.
Pourquoi je ris de Nicolas Chicone?
Just dance the jiggaloo. You got me crazy over you. You got me crazy over you.
Fait que toi, visiblement, t'aimes pas
attends,
ça.
Attends, c'est plus loin.
When I walk at night with you. Go down the bayou, you become a mademoiselle. I become the king of spells. Our black magic.
OK, là, si tu veux, si tu me permets, pourquoi est-ce que Nicolas Chicone, je trouve qu'il en a perdu, dans un de ses derniers albums qui est sorti en pandémie, il s'est gâté avec des chansons en franglais, dont une où il dit qu'il sort avec une jeune femme, beaucoup plus jeune que lui.
Okay.
Puis elle garde donc jeune. Mais c'est un grand malaise. Je m'excuse, Nicolas Chicone, j'ai adoré Bella Ciao. Je dis, je t'aime tout court, des belles paroles.
Mais il est réalise, Nicolas Chicone, là.
je dirais peut-être fin quarantaine, cinquantaine.
Mettons qu'il y a 50, ça blonde à quel âge?
Mais dans sa chanson, elle semble avoir 25, là.
OK, mais si les deux s'aiment, c'est quoi le problème?
Non, il n'y a pas de problème. La chanson, par contre, il y a 47. Puis il y en a une aussi qui fait de l'appropriation culturelle, dans le fond, où il parle d'une réalité qui n'est pas la sienne, soit celle d'une jeune Africaine qui est arrivée à Montréal. Qui est arrivée à Montréal. Cet album-là, Yannick, je te dirais pas avec qui j'ai écouté les chansons, parce que ces gens-là, ce sont des personnalités publiques, mais on est tous un peu... sans mots de ce qui nous a été livré. Fait que moi, je m'attendais à un grand succès encore. Sauf que je vais te dire une affaire. Tu sais, il y a des artistes qui parcourent bien le temps. Pour moi, Nicolas Chicone, après « Je t'aime pas, je t'adore »,« Ciao Bella »,« Je t'aime tout court ».
Ça marche plus. Là.
On a perdu un petit peu. On l'a perdu. Et son album s'appelle « Gratitude », OK? Je vais te montrer genre « Dynamite », OK? « Dynamite ».
Ah non, c'est correct. C'est correct. Donc, la critique de Pascal
Sévé. C'est fait au culturel. Alors, pour ceux qui trippent sur Nicolas Ciccone, sachez, il y a une nouvelle chanson qui est sortie.
La critique de Pascal Sévé, c'est « On l'a perdu ».
On a perdu c'est Nicolas Ciccone.
Sais-tu ce que j'ai écouté en fin de semaine? J'ai un truc là, pour la télé. Là. J'ai comme plein de trucs de documentaires, tout ça. Fait que je laisse ça aller random. Puis j'ai tombé, je sais pas s'il est encore disponible ou si ça fait longtemps qu'ils l'ont fait, ce documentaire-là, mais j'ai tombé sur le documentaire qui retrace la carrière de Rock Voisine.
OK.
Puis moi, Rock Voisine, il était déjà plus vieux que moi quand il a commencé. Fait que j'ai comme entendu 2-3 de ses tunes, mais j'ai jamais été un grand fan de Rock Voisine. Puis sérieux, j'ai pogné 2 minutes sur...
Positif ou négatif?
Positif.
Il y en a
sur
fait des choses.
Tout ce que ce gars-là a vécu, c'est un joueur de hockey, Rock Voisine. C'est un gars qui habitait aussi à Lévis, ce que je ne savais pas. Il a été à l'université de Sherbrooke. Puis lui, il avait pas... J'avais vraiment pensé faire de la musique, mais à un moment donné...
segment sur Nicolas Ciccone puis Rock Voisine.
Ah ouais.
J'adore mon mardi.
Oui, puis là, à un moment donné, quand il était aux études à l'université de Sherbrooke, lui, il trippait à jouer de la guitare. Fait qu'il allait jouer de la guitare dans les escaliers de l'université de Sherbrooke.
Devant tout le monde.
Parce qu'il voulait... pas des escaliers, il n'y a personne. Qu'il voulait le reverb, puis il voulait pas déranger les gens qui étaient dans sa chambre.
Je comprends, mais juste dans les escaliers, il y a toujours bien du monde qui passe. Je pensais qu'il faisait un spectacle.
Puis après, quelques fois qu'il faisait, il s'est rendu compte qu'il y a plein de gens qui allaient s'asseoir dans les escaliers, mais pour l'entendre. Puis c'est le moment où il a découvert qu'il pourrait peut-être faire ça de sa vie. Puis il explique comment ils ont bâti la toune Hélène. Il mentionne qu'Hélène, c'est crissement pas sa chanson préférée, là, alors que c'est la chanson qu'il a fait découvrir.
Mais ça, il y a beaucoup d'artistes qui, ça leur tente plus de chanter leur hit, tellement ils ont chanté. Là.
Mais
t'as pas le choix.
Se répéter constamment, ça doit être effectivement très, très plate.
Oui, mais t'es aimé pour ça.
Après ça, il parle de ses débuts. Écoute, les filles perdaient connaissance d'un spectacle.
Hey, Rock Voisine, c'était quand même une icône caliente.
Ouais, il était beau gosse, là, on va se le dire. Il est encore très beau gosse.
Il a eu de très belles blondes aussi.
Il remplissait des amphithéâtres à Nampufanet. Il a eu une carrière en Europe. Puis là, aujourd'hui, c'est un peu plus tranquille, mais il continue de virer. Puis moi, ce que j'ai trouvé le plus beau, là, c'est mon petit côté Katen, mais ce que j'ai trouvé le plus beau, c'est qu'il n'a jamais parlé vraiment de qui était Rock Voisine à ses gars. Parce que pour ces gars, c'était papa. Puis il a présenté pendant le documentaire ce que papa il faisait pendant que les gars n'étaient pas encore venus au monde.
OK.
Ils ont pogné leurs 2 minutes. Là. Puis les petits gars, ils posent plein de questions. Qu'est-ce que ça te faisait, genre, que les filles trippent sur toi de même? T'en apprends plein sur ce gars-là que je savais
les
pas.
Les questions qui viennent, c'est dans le documentaire pour la première fois avec ses enfants.
Avec ses gars.
Ouais.
Ces gars, parce que là, ces gars, ils regardent ça, puis il y a genre 25 000 personnes ou 100 000 personnes qui sont devant lui. Puis là, les caméras sont braquées sur les filles, puis les filles perdent connaissance. Mm. Mais les gars sont 16, 17, 18 ans. Là,
ils veulent des trucs.
Ils sont en plein dans le moment
ça t'a retenu, hein?
Où eux autres, ils rêveraient d'avoir toutes ces filles-là devant.
En même temps, ils ont la génétique de Joseph Armand Rock Voisine, là, fait que ça devrait aider. Là.
Ouais. Puis t'apprends plein de choses sur Rock Voisine que moi, je ne savais pas.
Mais est-ce que t'as perdu ton temps?
Non, pas du tout. Moi, j'aime ça, écouter des documentaires des fois qui m'intéresseraient peut-être pas, comme le documentaire de Rock Voisine, puis finalement me dire « Hey, tabarouette, je pensais jamais qu'il avait eu ce genre de carrière-là. » Même si au départ, quand il a commencé, c'était un phénomène, je savais qu'il existait, j'ai jamais vraiment été un fan. Mais de voir tout ce que... Tu sais, il y avait de la misère à dealer avec sa popularité. Ce qui faisait en sorte que quand il travaillait pas, il se rasait pas, il se mettait une calotte d'en face puis des lunettes, puis il s'en allait dans le Maine, tout seul.
Pour avoir la paix un peu.
À bûcher du bois, puis aller faire de la pêche. Puis il restait là pendant 2 mois.
Mais j'ai l'impression que ça a changé un peu. En même temps, Rock Voisine, avec le public féminin qui se découvre puis qui le découvre, mettons, en même temps, on va y aller comme ça, on va le dire de même, je pense que ça amène un genre de fanatisme sexuel, sensuel, intéressant. Puis c'est peut-être pour ça que les émotions sont un petit peu plus pimpantes. Mais on n'est pas connu, le peuple québécois, pour être des arracheux de chemises comme les Français. Là. Les Français, puis Céline Dion le disait, là.
Ouais.
C'est quelque chose. Les Français, là, s'ils peuvent avoir un petit bout de toi, comme la toune de Roxane Bruno, ils vont te le prendre.
Ouais. Rock Voisine s'est fait arracher son linge.
Ouais, c'est ça.
Y a un autre aussi qui est décédé, Michel Louvain, qui était pas ouvertement homosexuel, mais qui était homosexuel. Mm-hmm. Lui, il se promenait sur les planchers de danse, puis les filles voulaient un petit bout de Michel Louvain.
Oui, oui, oui.
Puis lui, ça l'a vraiment marqué, ça, ce moment-là.
Ça doit être difficile.
Mais dans le temps, c'était comme ça aussi au Québec. Patoff, toi, t'as pas connu Patoff.
Mais c'est pas une affaire pour enfants, ça.
C'était une autre histoire de documentaire sur lequel c'est Radio-Canada qui avait fait ça. Tu sais, moi, j'avais pas connu Patoff. Je l'ai connu sur poster, mais du temps où Patoff était hyper populaire à la télé.
Mais Patoff, c'est pas le clown?
Oui, Puis à la radio.
Qu'est-ce qu'il fait arracher son nez, là, parce qu'il tripait dessus?
Mais c'est parce que faut que t'enlèves tes yeux de 2025.
Ben vas-y, je te suis.
À l'époque, au Québec, il y avait Arjean.
Ouais.
Puis Patoff, c'était une star.
Oui, mais Yannick, tu vas pas dans la branche sexuelle avec laquelle on va avec Rock Voisine et Michel Louvain.
Okay. C'est juste qu'à chaque fois qu'il se présentait.
Ça s'appelle une petite déviance.
Chaque fois qu'il se présentait quelque part, il y avait 10 000, 15 000, 20 000 personnes pour Patoff, là. Pense-y 30 secondes.
J'y pense.
C'était épouvantable. Ça existait. Le phénomène qu'on voit en Europe, ça existait ici, mais à plus petite échelle. Ouais.
Mais on s'est calmé les nerfs aussi. C'est ouais. sûr que si tu m'envoies plein de Patoff, mais Joe Dassin, dans tout ce qui est la francophonie à travers le monde, ouais. c'en est un. Puis t'écoutes Serge Lama, ils ont couché des femmes, ils t'en ont couché plus qu'une.
Mais c'est vrai qu'ici au Québec, on s'est calmé là, sur le vedettariat, tellement qu'il y a des vedettes américaines, puis on s'en est déjà parlé, toi mm-hmm. puis moi, ils viennent régulièrement à Québec les fins de semaine. C'est des gens qui ont peut-être des chalets dans le secteur du Mont-Tremblant, puis ils viennent manger à Québec dans un bon restaurant, puis après ça, ils repartent chez eux ou ils ouais. dorment au Château-Frontenac. Là.
Ben oui, ils sont bien, puis c'est pas parce qu'on les reconnaît pas, c'est qu'on leur laisse une certaine bulle, puis ouais. un certain moment pour respirer. Il y en a qui nous parlent de Richard Séguin. Ah oui, là, ça, là, Richard Séguin, dans les années où il a les cheveux longs. Là. Mais tu sais, les bébés, n'oublions pas les bébés.
Mm-hmm.
Bourgeois, là,
ouais.
Patrick Bourgeois, ça perdait connaissance comme quelqu'un qui vient de s'entraîner 2 heures au gym sans avoir mangé la veille.
Ouais.
Là.
Encore là, les bébés, c'est un petit peu plus vieux que moi. J'ai pas embarqué sur la période des bébés. Je les avais
Patrick
entendu.
Bourgeois est plus vieux que toi?
Ouais, je les avais
ah, il
entendu.
Me fait plus d'effet.
Pardon? On sait bien les hommes de 60 ans. Ça
mais
l'aide.
Pas lesquels, parce que Nicolas mais... Chouconnet a 47 puis c'est pas mon genre.
Quelqu'un qui me dit, est-ce qu'il parle de la période d'homosexualité de Rock Voisine? Il en parle dans le documentaire.
Ah oui?
Ça a scrappé sa carrière, ça.
Parce que c'était une rumeur.
C'était une rumeur entre lui puis Stéphane Richer. Puis il est jamais sorti, puis ça c'est pour démontrer la classe du gars, là. Il est jamais sorti pour dire « Hey, les amis, je suis pas gay. » Il a juste laissé ça aller.
Mais tu veux te battre
mais il a perdu
ça
des contrats
ouais.
à télé ouais. parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi il était gay avec Stéphane Richer. Hey, sérieux, là, ça fait pas si longtemps que ça.
Puis sais-tu quoi? C'est encore le cas où, en ce moment, dans tout ce qui est la culture et les gens connus, il y en a qui se font dire « Ne parle pas de ton homosexualité ou
en
ta
2025.
Bisexualité. » Ça commence à s'ouvrir, mais je te okay. dirais, il y en a un, puis ça, je te dis, main au feu, OK? Ça s'est passé, c'est su, pas de rumeurs. Je vous laisse deviner, c'est un jeune homme à peu près dans mon âge, extrêmement beau garçon, qui en a fait faiblir plus d'une, qui a fait quelques émissions québécoises, mais qui est allé plus loin aussi, qu'on ne voit plus beaucoup dans le palmarès de la culture. Et cette personne-là, a dû cacher son identité sexuelle, qui est un petit peu plus fluide que celle qu'on pense, parce qu'il a été catégorisé comme ça.
Okay.
Puis ça lui a été dit de la part de ses agents.
Mais c'est weird, parce qu'en 2025, tu sais, il y en a qui profitent de ça pour justement se mettre de l'avant en disant « Moi, je suis gay », puis là, ben, on parle d'eux autres à la grandeur du Québec.
Oui, mais là, ça, je pense que c'est, mettons, un 2 % de gens qui s'en servent. Je pense que c'est plus un genre de « Hey, on va se le dire, arrêtez d'en parler, foutez-moi la paix, oui,
ben
je suis homosexuel. »
Mais Brock Voisine en parle dans le documentaire. Mm. À quel point il a perdu des contrats juste parce qu'il y avait une rumeur au Québec comme quoi il était gay.
La mentalité, hein? Et qu'on est, ouais. on a fait du chemin
on
quand même.
On n'était pas éduqués à ce niveau-là.
Il y a des gens qui nous demandent, puis moi, je partage cette question-là. Yannick?
Oui?
Il y a des femmes qui lançaient leur brassière à Patoff, là. Nous autres, on est restés pris là-dedans, là.
Moi, j'étais pas là, là. J'ai pas vu de femmes qui lançaient de brassière à Patoff. Ce que je dis, c'est que il y avait du fanatisme au Québec, là, tellement que parce qu'il n'y avait rien.
Ouais.
Patoff était une méga star. Si tu regardes le documentaire de Patoff que Radio-Canada a fait, tu vas pogner 2 minutes. Tu te dis, je peux pas croire qu'il déplaçait des foules.
Mais il faisait pas des blagues aussi, lui?
C'était pour les enfants.
Oui, mais c'est ça. C'est les parents qui accompagnaient.
Oui, c'était pour les enfants.
C'était
une méga star.
C'était pas un « je bave ».
Non, pas du tout.
Non, c'est ça. Parce que là...
Mais je sens que tu as besoin de ça ces temps-ci.
De baver?
De baver, oui.
C'est vraiment bon que tu parles pour moi. Mm-hmm. Toi, t'as-tu besoin de baver ce temps-ci, Yannick?
Hey, moi, pas en tout, j'ai pas le temps. Ah. Hey, parlant de pas le temps, Denis Gravel s'en vient dans les prochaines minutes. Donc, on va cesser de parler de Patoff avec Pascal CV. Antonine Iacarini va être avec nous. On parlait du fameux scandale de sa clique qui déborde d'incompétence. Pat Raymond, mon chum du podcast Financièrement parlant, va être là. Et David Chabot va nous parler d'un coup absolument hallucinant de l'Ukraine à l'encontre de la Russie. C'est du jamais vu. C'est pas le premier bon coup de l'Ukraine là, pendant cette fameuse guerre-là. Je vous dirais que c'est à peu près le deuxième.
Mais
on
lui
parlait
a fait
tantôt avec David. Celui-là a frappé extrêmement fort. 11h54. Ah, Nicolas Ciccone. 11h54. On s'arrête, on vient.
Marceau le midi. Le monde. Pendant 30 minutes.
Hey, ça, c'est un beau Willy, mon gars.
Voici le Pit Stop avec Gravel et Marceau.
1, 2, 1. Denis Gravel est en studio en ce mardi très ensoleillé. Je pensais te perdre aujourd'hui. Je me suis dit, il va rester dans le stationnement, se faire bronzer, affûter son bronzage.
La tentation était forte.
Pourtant, il y a le bras blanc, puis c'est juste ça qui est découvert.
Lentement, oui. Mais sûrement, on va se rendre à peut-être une journée de fin de semaine avec du soleil dedans.
T'es-tu le gars, maintenant qui va se mettre torse nu parce qu'il est bronzé comme un golfeur à un moment donné dans l'été?
Non, je regarde pas ça pantoute. Je vais au soleil une fois, puis je bronze. Fait que c'est pas, c'est ni une source de stress, ni une source d'inquiétude.
C'est drôle de question, Pascal, aujourd'hui.
À m'imagine okay. En bédaine.
Oui, non, parce qu'on parlait des hommes sexy de 60 ans.
OK.
Et... Oh, oui, ben, il fait des détours intellectuels, là. J'ai juste dit que Patrick Bourgeois,
oui.
Ça faisait.
Oui, oui. Brad Pitt, 60 ans.
Ça fait.
Ton père, à quel âge?
Moins de 60.
Son père a 57.
C'est le seul Écoute. Homme. C'est le seul. Ben là, je touche. Ben, c'est peut-être pas le seul homme, je sais pas. Il y en a peut-être un autre là, qui va arriver à un moment donné, mais je... Nicolas, tu connais 47, ça fait pas.
Non. Mais Brad Pitt, 60, oui.
Ça fait.
Puis t'expliques ça comment, ton père?
Ah, oh, j'y explique pas. Qu'il fasse avec.
Tu lui dis qu'il travaillait tout le temps comme pompier, fait que ben, ton père t'a toujours manqué, ça t'en prend un.
Arc, non.
Tu lui dis, ben, ça va te faire un ami de ton âge. Hein,
non, mais ils vont à la pêche ensemble.
Ça doit être épouvantable.
Épouvantable.
Alors, ouais. Ben non, je veux dire, pour un père.
Mais voyons.
Il y a un gars qui arrive chez vous, il a ton âge, puis c'est le nouveau chum de ta fille.
Je pense que ce qui était épouvantable, c'est que quand j'avais 15, 16, je sortais avec un gars de 18. Là, je pense que mon père avait hâte qu'on se colle un souper lasagne avec le gars pour voir il ressemble à quoi, là.
Ah ouais, bon.
Ouais, ça, je pense que c'est plus épouvantable que si je me mets à sortir avec Brad Pitt dans les deux prochaines semaines.
Ouais, ça arrivera.
Brad,
ça
voici
arrivera
mon numéro. Ouais. 418-25.
Ça arrivera pas. Hey Denis, je sais pas si tu étais à l'écoute tantôt, mais moi, j'ai pogné un méga 2 minutes. On en parle souvent, nous trois, de la maladie mentale au centre-ville de Québec. Les policiers qui doivent intervenir dans 80% des cas... À Saint-Roch, ça touche la maladie mentale. C'est une problématique de société qu'on a. J'imagine qu'ailleurs dans le monde, ils ont toutes les mêmes problématiques dans les grands centres. Mais il n'en demeure pas moins que ce matin, Audrey m'a envoyé un article du Devoir. Puis elle me dit, Yann, lis ça, puis on pourrait peut-être avoir la chance de recevoir ces deux personnes-là qui sont concernées par la maladie mentale d'un membre de leur famille. C'est dans le Devoir, l'article s'intitule « Des familles sans voix face à la maladie mentale ». Je trouvais ça intéressant. J'ai lu l'article jusqu'à temps que je croise son père et que je réalise vraiment l'ampleur des dommages que la maladie mentale peut avoir causé, tant pour son fils que pour la famille en entier, l'entourage aussi pour la ville où ces gens-là sont. Et pour la petite histoire, c'est Nathalie McDonald qui était avec nous, ainsi que son père Maurice, puis il nous parlait de Nathan, qui est le frère de Nathalie, qui est le fils de Maurice. Nathan, quand il était jeune, ça allait bien. Il était comme tout le monde, un enfant qui était qui s'amusait, qui avait du plaisir, qui était souriant, qui avait des amis. Puis à un moment donné, au secondaire, il a changé de gang. Puis cette gang-là, ben, c'était des gens qui prenaient régulièrement de la drogue. Puis on ne sait pas encore c'est quoi nécessairement cette drogue-là qu'il prenait, mais c'était peut-être du pot, c'était peut-être de l'acide, c'était peut-être des produits chimiques, mais il a commencé à développer des psychoses. Mm-hmm. Puis quand tu fais des psychoses toxiques, ben, tu as des chances d'en redévelopper d'autres par la suite. Puis Nathan a toujours été un grand consommateur de drogue, ce qui fait en sorte qu'il a été considéré comme étant un schizophrène. Et plusieurs fois, il a été arrêté. Plusieurs fois, il a fait des petits crimes. Plusieurs fois, il a menacé sa sœur de s'en prendre à son enfant de 2 ans et demi. Il voit des ennemis partout. Il appelle son père pour lui dire que sur le toit, il voit des espions. Son père qui veut l'aider, qui dit « Garde, mon fils est peut-être pas totalement fou. » Fait qu'il passe la nuit de garde en face de l'édifice où son enfant réside. Déjà. Pour voir si vraiment il y a des gens qui se promènent sur le plafond. C'est des décennies qui s'accumulent où ces gens-là demandent de l'aide puis réussissent pas à avoir de l'aide concernant ce membre-là qui se serait doté d'une arme à feu dimanche alors qu'il a un dossier criminel. T'sais, donc, on présume que c'est une arme à feu qui a été obtenue de façon illégale. Et c'est un gars qui est atteint de schizophrénie. Il prend pas ses médicaments. Et eux essayent absolument tout. Essayer de le garder à Robert Giffard, exemple, ou à Pinel, parce que ce gars-là représente un danger pour la société. S'il ne s'aide pas, c'est le cas. Puis sont complètement démunis, Denis.
Écoute, dans la région, évidemment, on est très sensible à ce genre d'histoire-là parce qu'il y en a une qui nous a littéralement explosé au visage. Une histoire qui ressemble en tout point à celle que tu nous racontes puis que tes intervenants sont venus raconter cet avant-midi. À partir du moment où le gars est dangereux, a des antécédents violents puis qui est rendu avec une arme, moi, je pense que les policiers doivent intervenir et doivent le faire rapidement. On nous a dit qu'on allait changer nos politiques et nos façons d'interagir et d'intervenir dans des cas comme ceux-là où tu as des proches et on est chanceux parce qu'il y a des proches. Parce que ce qui me fait freaker le plus dans ces histoires-là, Yann, moi, c'est le nombre de personnes qui sont exactement dans le même état mais qui n'ont personne dans leur entourage. Là, tu as des gens plus que dévoués qui tirent les sonnettes d'alarme. Il y en a un qui monte littéralement la garde devant l'immeuble où son enfant réside pour essayer de protéger du monde. Ces gens-là ne doivent pas être laissés à eux-mêmes. C'est des saints et des saintes qui vivent probablement un cauchemar réveillé. Il n'y a rien de pire que d'imaginer son fils ou sa fille qui tourne de cette façon-là puis qui devient une espèce de bâton de dynamite avec une mèche ultra courte.
C'est un danger. Puis tes écoutes, là, puis la chose qui me revenait, c'est qu'ils sont en constante hyper-vigilance envers un de leurs proches. Puis ça, là, c'est la pire affaire pour la santé physique et mentale.
C'est
aussi,
sûr.
Là.
Ils méritent pas ça. C'est des gens qui méritent d'être accompagnés. Ouais. Mais là, on est rendu à l'étape où on doit intervenir et on doit le faire le plus rapidement possible.
Ouais. Fait qu'en parlant, parce que je suis arrivé la semaine dernière quand on parlait avec le syndicat des ambulanciers, la CAQ a appelé directement le syndicat en disant « On veut s'adresser à vous autres. » On a fait une entrevue à Boulevard. On vous a entendu à Boulevard, puis on veut vous rencontrer. Puis en parlant de ce cas-là, puis de d'autres cas, comme le cas de Kim Lebel. Tu sais, Kim Lebel qui a tué Jacques Côté, même affaire. Les parents faisaient tout pour essayer de faire en sorte que Kim Lebel, qui était leur enfant, ne s'en prenne pas à d'autres personnes. Ils ont tout fait, les démarches nécessaires, ça fonctionnait pas. Ils s'en vont à la centrale de police du Parc Victoria pour dire « Notre fils est malade, allez le chercher, ça n'a pas de bon sens. » Quand ils reviennent à la maison, ils aperçoivent Kim Lebel qui est en train de varger à coups de pelle d'en face Jacques Côté. Il est en train de détruire le visage au grand complet. Son père, qui est complètement démuni, qui est en voiture avec sa femme qui est à côté, dit « J'ai pas d'autre choix que de rentrer avec ma voiture dans mon fils pour le tasser
pour l'arrêter.
Il a fessé son fils sa route pour l'arrêter de fesser un corps qui était rendu inerte.
Imagine-toi le courage que ça prend, puis à quel point t'es convaincu que ça va mal virer quand tu vas dénoncer ton propre fils aux autorités. Quand tu fais des entrevues dans des stations de radio pour signaler « Là, mon fils est schizophrène, il est violent, il est agressif, il menace ouvertement, puis il vient de se procurer une arme, puis j'ai la chienne que ça vire mal. » On est des parents, on est fiers de nos enfants, puis on a peut-être parfois de mauvais instincts par-dessus lesquels il faut passer à un moment donné dans notre vie de dire « C'est mon fils, mais là, je dois aller le signaler parce que ça va mal virer. »
Mais c'est de l'amour, ça aussi, là.
C'est de l'amour aussi, mais...
Plus violent.
Moi, j'ai l'impression que dans le processus de réflexion, il faut que tu passes par-dessus la notion « En tant que parent, il y a quelque chose que j'ai pas fait comme faux. » Puis là, je m'en vais me dénoncer, entre guillemets.
Ah, puis
je le sais que c'est pas ça, là. Sur le fond, je suis convaincu que c'est pas ça. Mais entre les deux oreilles d'un parent, c'est sûr que tout est de notre faute, puis qu'on prend l'entière responsabilité. Tu passes par-dessus ça parce que tu te dis, là, il y a du monde qui vont peut-être mourir.
Oh, c'est souffrant. Fait que
c'est mon devoir de citoyen qui passe par-dessus mon instinct parental de protection, puis qui dit, OK, là, il faut que j'aille parler à la radio parce que personne ne m'écoute. Il faut que je me rende au poste de police direct parce que là, ça s'en vient puis je sais pas quoi faire. Je peux te dire qu'Audrey est sur le téléphone présentement parce qu'on essaye d'avoir des réactions et du gouvernement et des autorités responsables dans la région où ça se déroule. Puis c'est une histoire qu'on va essayer de faire avancer cet après-midi. Pour les gens qui l'ont manqué, elle est déjà disponible sur le blvd.fm, Yann. Puis il y a de bonnes chance que pour la mise en situation, on réécoute la conversation que vous ayez eue cet après-midi. Puis, comme je vous dis, là, moi, je pense que c'est un dossier qui doit avancer excessivement rapidement, là. T'arrêtes le day-to-day, puis tu t'en vas chercher ce gars-là. Là. Puis j'espère qu'on va avoir du concret à vous offrir cet après-midi dans le retour par rapport à tout ça.
Oui, les parents semblent être obligés de se battre contre le système qui a été mis en place. T'sais, autrefois, dans les années 60-70, il y avait quelqu'un qui était malade au niveau psychologique. On pouvait le rentrer à l'hôpital pendant plusieurs mois, plusieurs semaines pour qu'il puisse se faire soigner, puis après ça, ressortir si tel était le cas. Aujourd'hui, comme son père m'expliquait, c'est le balancier est complètement rendu à l'autre bout.
Avant, on prenait quelqu'un qui était louche. On l'enfermait à l'asile parce qu'on se disait le plus important, c'est de protéger les citoyens. Ouais. Et là, on est rendu effectivement complètement à l'autre bout du balancier. Oui, puis ça crée des situations dangereuses. Puis je repose la question. Pour une personne qui est signalée par sa famille, par ses proches, par son entourage, il y a combien de gens seuls qui sont exactement dans le même état? Il y a encore eu de la violence hier dans le secteur de Québec.
Un homme de 70 ans qui s'en est pris, un homme de 40 ans, un coup de couteau. On craint pas pour la vie de l'homme de 40 ans, mais on pense que ce serait une dette. Là. Donc,
ouais. En plein jour, là, il était pas tard, 18h.
18h30 de mémoire.
Ouais.
Dans un secteur très urbain, très fréquenté.
Puis à cette heure-là, tout le monde sort du travail.
Ben oui, c'est l'heure des 5 à 7. Ouais. On n'est pas loin du parvis. Je veux dire, écoute, il y a beaucoup de réflexions à avoir, puis c'est un problème qui prend tellement d'ampleur, puis sans revenir aux années de l'asile où ce qu'on prenait quelqu'un qui avait l'air louche puis qu'on l'enfermait d'une camisole de force puis qu'on lui donnait des électrochocs, sans tomber dans la caricature, faut peut-être recommencer. Commençons par l'étape la plus simple. Écoutons les gens inquiets qui viennent signaler un membre de leur famille en disant « Nous autres, on a tout donné, mais là, on a besoin d'aide puis on pense que ça va mal virer. »
C'est
la moindre des choses.
C'est même particulier qu'on se rende compte qu'il n'y a pas vraiment un canal très, très précis, très développé, très structuré pour ce genre de dénonciation-là, que ce soit anonyme ou pas.
Après Kim Lebel, on nous a dit que ça allait changer.
Mais il n'y a rien.
On nous a dit que le canal d'intervention serait à la fois direct, différent, efficace.
Oui, mais dans les rapports, la commission Charbonneau, la commission, tu sais, ce qui se passe avec la commission Gala, ce qui se passe avec la DPJ. On a toujours, mettons, même dans les rapports coronaires, des recommandations quand même intéressantes après avoir été sur le plancher. Puis quand tu fais des suivis, puis on en a fait, puis je pense que surtout dans tout ce qui est la DPJ, on se rend compte qu'il n'y a rien qui change.
Mais mettons que les protocoles nouveaux ne sont pas mis en place ou ne sont pas complétés. Il faut quand même montrer qu'on a appris. Et là, c'est une question d'urgence de trouver ce gars-là, de le mettre aux arrêts. Et après ça, ben au pire, s'il y a des gens qui ont exagéré le danger relatif de l'individu, ben on se sera protégé. C'est pour ça que les alertes Amber existent. Mm-hmm. Une fois de temps en temps, il y a une alerte Amber qui se déclenche, puis une demi-heure plus tard, tout est réglé. Mais qu'est-ce qu'on dit? On prend plus de chance avec ça.
Exact.
Ben, des dossiers comme ceux-là, la société n'a pas le luxe de prendre une chance avec un gars schizophrène dénoncé par sa famille qui s'est trouvé un gun en fin de semaine.
Mais exact. Mais son père, il m'a dit des choses hors d'onde que je ne répéterai pas parce que c'était une conversation de moi à lui, puis je veux le respecter dans ça, puis il n'y a rien de dangereux dans ce qu'il m'a dit. Mais il y a une chose qui m'a marqué, puis je pense qu'il me l'a dit en onde, fait que c'est pour ça que je peux me permettre de vous le dire. Son père se bat depuis des décennies pour que son gars se fasse soigner, pour que son gars cesse de faire du mal aux gens qui l'entourent. Okay?
Ouais.
Il se heurte à des fonctionnaires qui disent « Monsieur, il vous a menacé. Vous pensez qu'il vous a menacé? » Parce qu'il a dit « Je vais te tirer. » Mais regardez sur le « E », il n'y a pas d'accent. Donc, « Je vais te tirer », c'est pas nécessairement une menace.
T'es pas sérieux.
Oui, il me l'a dit en nom.
C'est...
Fait qu'on en est rendu là avec des fonctionnaires qui doivent respecter le code à la lettre. Puis là, ils regardent ça. Ah, c'est écrit « tir », c'est pas écrit « tirer ». Donc, techniquement, c'est pas une menace. Passez une belle journée, monsieur. S'il y a de quoi, rappelez le 911.
Mais c'est tellement con que tu te dis, pourquoi est-ce qu'une personne est capable de computer comme ça cognitivement en disant « Oui, oui, c'est correct, je vais te laisser partir. » Est-ce que c'est parce qu'ils savent que derrière la paperasse ou l'intervention ou autre ne se fera pas, puis ils veulent faire en sorte que, mettons, le père... qui n'est pas du tout stupide et qui est très conscient et lucide, va pas repartir avec moins d'inquiétude. Mais est-ce qu'ils se disent ça va peut-être désamorcer la situation? Je comprends pas.
Écoute, jusqu'à preuve du contraire, je suis pas schizophrène, je suis pas violent, je suis pas dangereux, puis je révise pas toujours mes fautes. Là.
Je mets aucun accent sur Messenger, attention la gang.
Fait que les schizophrènes, ils peuvent pas faire de fautes s'ils veulent bien s'exprimer.
C'est
pas le droit.
Complètement, complètement ridicule. Puis encore une fois, moi, je veux saluer ces proches-là. 99 % du temps, c'est pas de leur faute. Puis c'est des gens qui, effectivement, vont se dédier, un parent se dédie à son enfant, quoi qu'il arrive. Puis quand ça tourne comme ça, c'est le cauchemar de, c'est le cauchemar de n'importe quel parent. Tu sais.
J'ai manqué un bout. Est-ce qu'ils sont catégorisés comme proches aidants aussi? Parce que le temps investi là-dedans, s'il arrive proche d'un genre de tragédie possible, le temps de se déplacer, d'y aller, perdre du temps de travail, être toujours sur le qui-vive, puis ça, c'est pour protéger la société, là, pas juste leur propre personne et leur famille et leur fils. Là. Est-ce qu'ils sont catégorisés? Parce que ça, c'est une question qui importe dans le dossier.
C'est une bonne question, mais eux, ce qu'ils veulent, c'est de l'aide, puis si on peut servir à quelque chose dans la vie, là, quelque chose de positif, c'est ça. Fait qu'on va s'organiser pour que la conversation qu'on a eue avec eux, ouais, que l'article du Devoir se rende à la Coalition Avenir Québec, puis que la Coalition Avenir Québec sorte en disant « voici ce qu'on va mettre en place ». Ils doivent le faire.
Tu sais, pour avoir eu quelques histoires de problématiques de santé mentale dans mon environnement immédiat, à un moment donné, c'est jusqu'où tu peux aller pour aider une personne qui ne veut pas s'aider elle-même. Une personne adulte qui ne veut pas prendre ses médicaments. Une personne adulte qui non seulement ne prend pas ses médicaments, mais prend de la drogue. C'est à partir de quel moment que tu te dis « ben je lâche prise, puis arrivera ce qui arrivera », parce que tu peux pas t'interposer, t'es pas un policier, t'es pas une autorité, t'es un proche aidant d'une personne qui veut pas toujours s'aider, et dans le cas d'un schizophrène, pas toujours capable de prendre les bonnes décisions non plus, parce que pas capable d'avoir le jugement nécessaire pour ça, mais... Quand la personne a 13 ans, t'es son autorité. Quand la personne en a 22, il n'y a plus grand-chose que tu peux faire. Puis il n'y a rien de plus triste que de voir une personne intelligente se désorganiser de façon permanente, puis voir que cette personne-là sera plus jamais capable de remettre les morceaux de casse-tête dans l'ordre. Moi, j'ai une amie à qui c'est arrivé, là. Je veux dire, qui vit dans la rue aux dernières nouvelles et qui a un restraining order contre des enfants de sa famille parce qu'elle a des antécédents puis des réactions violentes. Puis c'est une personne que j'ai perdue de vue, mais à une certaine époque, c'était une personne très intelligente qui gagnait des prix au secondaire, qui gagnait des prix au cégep. Puis à un moment donné... La schizophrénie s'est installée. Elle a refusé de prendre sa médicamentation parce qu'elle disait qu'elle n'était pas malade. Pas beaucoup de gens dans son entourage rapproché pour essayer de la convaincre de prendre les bonnes décisions.
Ouais.
Tu te retrouves à regarder à une certaine distance l'accident de char de quelqu'un qui t'aime et tu peux pas intervenir. Tu sais.
Mais... J'ai un ami comme ça puis rendu sa rue Saint-Jean à demander 3$.
Ouais. Ouais. Peut-être que les médias ont un rôle à jouer là-dedans dans le sens où quand les politiciens annoncent quelque chose de positif puis tu vois qu'ils travaillent comme en amont, on aurait comme avantage à couvrir ce politicien-là parce que dans les médias, ce qu'on fait naturellement, c'est on couvre la réaction.
Ouais.
Fait qu'il y a un gars à l'Halloween qui se déguise, qui arrive avec un sabre, il décide de découper tout le monde qui croise sur son chemin dans le secteur du château Frontenac. Pouf, réaction, Geneviève Guilbeault, Lionel Carman qui
lendemain
arrive. Un 100 millions de dollars pour la santé mentale. On le sait, pendant la pandémie, ça n'a pas été facile. Fait qu'on va investir 100 millions de dollars. Là, cette conférence de presse-là a fait le tour du Québec au grand complet parce que la CAQ a dit « Hey, wow, tabarouette, ça n'a pas de bon sens que le gars ait fait une affaire de même. » Fait qu'on va aider à la santé mentale. Mais quand tu travailles avec, quand tu jases avec les gens qui travaillent en théâtre de guerre, ils disent « Cet argent-là, on ne l'a jamais vu. » Pourtant, l'annonce est arrivée.
Ouais.
Mais
c'est triste, puis en plus, c'est 100 millions, Yannick, tu le sais autant que moi, Denis, même affaire, quand même que tu mets ça sur la table. Mettons qu'il l'aurait vu, cette enveloppe-là. Il faut quand même réguler où c'est que tu le mets.
Mais c'est d'en parler quand les politiciens le font en amont. De dire « Tabarouette, ils sont en train de prévenir quelque chose. Geneviève Guilbeault, Lionel Carman ont fait ça, ça va peut-être prévenir des drames, cette affaire-là, puis mettre ça positif, parce que nous, on couvre la réaction constamment. Fait que les politiciens, eux autres, ça leur sert à quoi de travailler en amont si c'est pas payant politiquement pour eux?
Yann, en toute honnêteté, là, si on n'a pas des bonnes nouvelles à vous donner à la fin de la journée dans un dossier évident comme celui-là, là, moi, je finis ma journée désabusée. Là. Le gouvernement, ça sert à rien. Les policiers, ça sert à rien. Les médias, ça sert à rien. On a tout ce que ça prend entre les mains présentement pour faire en sorte que ce gars-là soit arrêté, soit détenu, soit interrogé et que les gens que tu as reçus en studio tantôt soient protégés. Si à la fin de la journée, on n'est pas capable, en tant que société, de faire avancer un cas flagrant et urgent comme celui-là, il n'y a plus personne qui sert à rien, là. À suivre cet après-midi, les amis.
J'en profite pendant le temps que je sens une petite faiblesse de ta part, là, pour te parler de l'Office québécoise de la langue française.
T'es sûr que tu veux pas lui faire sauter une journée, eux autres?
Hey, moi, j'aimerais ça.
Denis,
là.
À travers le Québec, là, t'as combien de gens que t'as côtoyés qui ont déjà fait une plainte à l'Office québécoise de la langue française?
Zéro.
Pascal?
Zéro.
Zéro.
Zéro. Zéro comme dans Willett.
Des auditeurs qui nous écoutent présentement qui ont déjà fait une plainte ou qui connaissent quelqu'un qui a déjà fait une plainte à l'Office québécoise de la langue française au 418-971-1021, ces gens-là sont où?
À Montréal.
Montréal.
Ah, j'ai l'impression. Je sais pas si. J'ai pas regardé les chiffres de très près parce que le chiffre est hallucinant.
10 000.
Ouais. 10 000 plaintes, c'est quoi? C'est pour la dernière année?
Pour la dernière année, donc dernière année financière 2024-2025 qui s'est conclue le 31 mars dernier.
Est-ce que tu as le pourcentage de plaintes qui provient de l'île de Montréal dans ces chiffres-là?
C'est une... Je l'ai, oui.
C'est
la
quoi?
Plupart des... La part du Lyon vient de la région de Montréal. C'est 53 %.
Pas surpris.
La Montérégie, c'est ce qui se passe en Montérégie, c'est 12 %.
Pas pis... content. Pas content.
Capitale nationale, on arrive à 8 %. Donc, 53 % des plaintes à l'Office québécoise de la langue française, ça vient de Montréal et Québec, 8 %.
On a-tu le pourcentage de gens qui écrivent plus de 100 plaintes par année à l'Office québécois de la langue française? Ben, ça, c'est mon autre théorie.
J'ai son visage.
Ah, OK. C'en est un, ça?
Son nom, c'est François Perrault.
Oui.
Et lui, semble avoir beaucoup de temps.
OK.
Il semble être un retraité de Radio-Canada. Je sais que ça va te surprendre, mais il semble être un retraité de Radio-Canada selon son profil
pas
LinkedIn.
Pas tombé à terre.
Et lui, il se promène à Montréal et dès qu'il voit quelque chose qui n'est pas conforme, ben, il appelle constamment à l'Office québécois.
J'aimerais avoir aussi peu de responsabilité dans ma vie pour
dans
avoir
ton show
du temps à perdre à ce point-là.
Tu le reçois?
Mais malheureusement, j'ai des passions.
OK, je plonge, les gars, parce que j'ai essayé de trouver la zone grise dans tout ça.
Oui.
Parce qu'il y avait un visage, parce qu'il y avait 50 % de plaintes du côté de Montréal, parce que ça fait l'actualité. Puis Colin, je savais qu'avec... Est-ce que c'est, ça brasse plus à Montréal parce que le multiculturalisme est tellement fort qu'il y en a qui pensent que, avec la peur que peut-être certaines personnes ont, peut-être avec le genre de sentiment, ils volent nos jobs qu'on entend une fois de temps en temps, qui est quand même du racisme puis qu'il y a un manque de savoir-vivre, quand à Montréal, ça fonctionne quand même bien. Puis ce multiculturalisme-là doit jouer. Puis sinon, moi, ma prétention de croire, c'était comme, ah, ben, peut-être en région, ou des gens qui ont moins appris l'anglais, qui côtoient moins, tu sais, le stéréotype de base, là, côtoient un petit peu moins la diversité, arrivent dans un commerce, ils sont en anglais, ils ne comprennent pas trop, ils se sentent incompris. J'essayais d'aller trouver la zone grise.
Mais 2005, j'avais qu'un seul critère là, pour ce qui est de mes blondes, c'est que ça devait être des barmaids, ce qui faisait en sorte qu'on allait régulièrement s'amuser à Montréal. Puis on se tenait dans le coin de la rue Crescent. Puis, je me faisais jamais servir en français. Là.
Ouais.
C'était déjà en anglais. Puis, les statistiques sont juste hallucinantes. Là. 2017, on est à peu près à 2000 plaintes. Là, on est rendu en 2025, 10 000 plaintes.
Je suis pas surpris que des gens avec peu de vie et peu de passion se trouvent ce genre de croisade-là. Je pense pas que notre bon monsieur retraité de Radio-Canada soit le seul, puis je trouve ça malheureux. Tu sais, on veut ouvrir des possibilités à des gens qui viennent d'ailleurs, mais en même temps, on voudrait qu'ils parlent un français impeccable à partir du moment où ils mettent le pied à terre.
6 mois!
Moi, je l'ai encore sur le cœur, l'histoire à Stoneham, là, à Shop de croissant, où des vieilles madames pain-bêche se sont plaintes parce que ils se faisaient pas servir leur croissant beurre dans un français impeccable parce que les immigrants venaient d'arriver. Puis le propriétaire de la shop à croissant disait « Hey, les amis, un peu de tolérance.
Oui.
Ça fait pas 2 semaines qu'ils travaillent ici. Ouais. Ça fait pas 2 semaines qu'ils sont arrivés dans la province de Québec. Encore là, quand tu regardes dans ce secteur-là, qui vit là, y a moyen de faire des liens, là. »
Ah, Denis.
Ah, absolument. Absolument. On les connaît. C'est des noms connus.
Pas trop fort, pas trop de bruit, pas trop de construction. Ça arrive.
Ben,
mais il y aurait pas leur croissant beurre si ces gens-là n'allaient pas travailler dans cette shop-là. Avec
très
la pénurie
bon
de main-d'œuvre, c'est des gens qui nous aident énormément côté économie. On peut-tu les aider minimalement?
Micheline
aussi?
A son sac de ça.
Ah, Micheline n'aura pas son croissant. Fait que le temps qu'elle réalise.
Micheline est juste fâchée.
Là, pauvre Micheline, t'es en train d'insulter une couple. Là.
Mais tu sais, n'en demeure pas moins que. Tu sais, moi, je pense que pour ce qui est de la devanture de ton commerce, que ce soit écrit, je sais pas, moi, le nom de ton commerce est en anglais, puis que ce soit écrit ici, on vend des chaussures, ça me dérange pas tant. Mais ce que je trouve particulier pour les commerçants avec la nouvelle loi qui est en place, c'est que tous les produits que tu vas acheter, s'ils sont expliqués dans les deux langues, donc sur la face A en français, face B en anglais, ben faut que la face A soit plus grosse que la face B.
Incroyable.
Mais les distributeurs, eux autres, ils se sont pas revirés de bord. Là. Fait que c'est toi qui vas devoir, avec ton imprimante,
oui,
écrire chaque étiquette pour être sûr et certain que tu sois conforme à l'Office québécois de la langue française.
Et il y en a beaucoup qui le feront pas, ce qui va faire en sorte que bien des produits disponibles présentement sur les tablettes de la province de Québec, le seul endroit où vous pourrez les acheter, c'est Amazon. Donc, on prend des clientèles spécialisées qui fréquentent des magasins spécialisés. Ça prend une grande méconnaissance de l'industrie pour penser que ces lois-là font du sens. Là. Faut vraiment... On est à la fois méga complexé, puis on se prend pour tellement plus que ce qu'on est réellement dans l'univers. C'est comme les deux en même temps. C'est un paradoxe qui est fascinant. Tout ce qu'on fait, là, c'est qu'on prend ces clientèles-là, on va faire fermer les magasins spécialisés, puis ces gens-là vont faire affaire directement avec des sites Internet pour avoir les produits qu'ils ont besoin.
Mais ils vont chialer parce que c'est Amazon, ils vont chialer. Tu sais, le chialage va aller...
Ah, eux autres vont chialer, ouais. Mais moi qui me contre-calisse de l'emballage de ce que j'ai besoin, je vais commander sur Amazon, puis je le fais déjà.
Ouais.
C'est malheureux, mais c'est là qu'ils nous poussent. Donc,
c'est ça, c'est ironique, parce que si tu t'en viens trop strict et de façon trop fermée, puis un petit peu démagogue dans ton approche par rapport à ça, ben tu vas devoir aller consommer dans quelque chose d'américain où tu n'auras pas le service que tu veux. Même retourner ta commande, tu ne seras pas capable parce que tu n'auras pas un commerce de proximité dans ce que tu souhaites avoir comme possession.
Je trouve que cette loi-là va beaucoup trop loin pour nos commerçants. Je pense qu'ils vont revenir avec une date peut-être de 6 mois. Là. C'est sûr qu'ils vont revenir là-dessus parce que tout le monde est dans le trouble actuellement. Fait qu'ils vont redonner un délai de 6 mois. Mais tu sais, j'ai fait quelque chose chez nous. Moi, j'ai la chance d'avoir des enfants qui ont le français de leur mère. Fait qu'ils parlent bien en français. Mais chez nous, quand ils écoutent de quoi, c'est tout le temps en anglais. Puis, à partir du moment où je leur ai dit, les gars, vous n'avez pas le choix. Ce que vous écoutez, vous devez constamment l'écouter en anglais parce que c'était tout le temps des YouTubeurs français-marocains. Je n'étais plus capable. OK? J'aime les Marocains, mais c'est juste que les YouTubeurs français-marocains, je m'arrivais avec des wesh dans la maison.
Mais il y en a qui sont écœurés de passe-partout. Là,
fait que là, ils écoutent tout en anglais chez nous, chez leur mère, ils écoutent tout en français.
Fait que les vidéos des tournées une étoile en Belgique, t'as plus ça, toi?
Non!
Mon chanceux.
Puis là, là, ça va faire en sorte que, tu sais, ils commencent à prendre connaissance à quel point l'anglais, c'est important. Puis, tu sais, vous en parliez dans le show du matin, début des années 2000, tu sais. Puis encore aujourd'hui, en 2025, c'est important. Autant qu'on conserve le français au Québec, autant que nos enfants soient capables de se débrouiller dans les deux langues.
Écoute.
C'est le petit manque qu'on a eu, nous autres.
Ben oui. Puis plus t'as d'outils dans ton coffre à outils, plus tu peux aller loin, plus tu peux faire ce que tu veux. Mais tu sais, tu me connais, particulièrement avec l'Office québécois de la langue française. Je suis un gars zen! Je suis un gars qui voit le bon côté des choses. Puis, faut voir le côté humoristique là-dedans. Dans un magasin de disques, je sais pas comment ça va fonctionner, mais s'il y a des gens qui décident de prendre les albums connus et de faire la traduction française sur l'étiquette, je suis le premier à avoir très hâte d'aller m'acheter le cœur solitaire du Sergent Poivre du groupe Les Scarabées Mal Écrits. J'ai très, très hâte. Très, très hâte. Ça va être pour moi un beau moment que je vais vivre.
Puis on va scraper la carrière à Nicolas Ciccone qui vient de sortir un nouveau hit aujourd'hui parce qu'il la chante en anglais.
C'est quoi? Qui est-il?
Tu connais pas Nicolas Ciccone?
Pas vraiment, non.
Ah, sérieux, là. Elle m'a fait jouer ça tantôt en début de show, là. T'sais, Nicolas Ciccone puis Safia Nolin pourraient servir d'objet de torture à Guantanamo Bay.
Je trouve que t'es pas
fin. Pour ce qui est des terroristes qui veulent pas parler, là, tu leur fais écouter ça 24 heures sur 24.
Ah, pas besoin d'aller à Guantanamo. Moi, j'ai averti mon grand, lâche ton sel ou on passe Safia, là.
Il est crazy over you.
Je trouve pas ça si pire.
Hein? Je suis désolé, Denis. Next to you, I'm so joyeux.
Denis, va falloir que tu quittes Antonin Iaccarini sans vie.
T'es sûr que tu veux pas écouter l'album Gratitude?
Non, pas
du avec
non.
Gaffa, avec Dynamite.
Désolé, j'ai hâte d'entendre Antonin sur l'Office québécois de la langue française, par exemple.
On va parler d'un autre sujet, mais Antonin s'en vient. Midi 31, vous savez les choses à nous dire. C'est le 418-971-101. S'il se passe quoi que ce soit sur la route, merci d'être nos yeux, nos oreilles. C'est par texto. Dans Midi 37, on profite du passage, du court passage d'Antonine Iaccarini en studio pour lui jaser. Elle est sur le point de décoller à 13h, c'est ce qu'elle a mentionné. C'est Cancun, c'est... tu vas où?
Je m'en vais à Radio-Canada.
À Radio-Canada! Qu'est-ce qu'on va faire là?
Zone Info.
Ah oui?
Ah, Yannick, il se sent trompé, là, c'est quoi, là? J'ai senti un genre de...
Non, mais j'ai dit à Denis, là, tu dois quitter la place parce qu'il doit avoir un seul homme dans la place pendant qu'Antonine rentre. Ah. Et il a acquiescé. Fait que là, tu me dis que tu me partages avec Radio-Canada.
Yannick a pissé sur toi.
Avec Gérald Filion.
OK? Je sais pas de quoi tu
parles. Mais c'est comme un chien qui fait son territoire. Moi, ça m'a donné cette image-là, moi, Yannick.
Non, non. C'est,
si tu ne la veux pas, tu ne vas pas là.
Dans ma meute, on fait pas ça aux femmes.
Merci.
Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Comment ça va?
Ça va bien.
On est content de te voir. Il y a de l'actualité bien en masse. Il fait soleil à l'extérieur. Ce qu'on fait, on travaille tout, on s'en va?
Sérieusement, c'est un complot, je pense. Le beau temps la semaine, puis la pluie la fin de semaine.
Oui, en passant, lâcher la fille de TVA, là, elle l'a juste échappé un peu. Puis là, ça dure, puis là, je vois des caricatures, puis tout ça. Elle l'a échappé un peu. Ouais. Mais on a tous le droit à l'erreur. Là.
Dans la vie, oui.
Oui. Ben toute la gang. En as-tu déjà fait, toi, des majeurs qui ont fait le tour du Québec au complet?
Le tour du Québec, non, mais des potentiels qui auraient pu, j'ai quelques idées en tête.
Ouais, moi, ça m'est arrivé, je vais le refaire intentionnellement, là, mais ça doit faire 6-7 ans, puis je suis en train de lire le livre de Christine Brouillette. Ça s'appelait Montréal Noir, OK? Puis au lieu de dire, là je parlais d'une nouvelle d'actualité, puis au lieu de dire Montréal Nord, j'ai dit « Hey, les amis, ça se tire à Montréal Noir ».
Oh non.
Et si, bon, ça n'a pas été long que ça a été repris, là. Puis ça a été diffusé. Mais je lisais le livre de Christine Brouillette, puis c'était Montréal Noir.
Non, puis quand tu dis faut pas que je dise quelque chose, tu le dis, on dirait. Ouais, c'est comme imprimé dans ta tête.
Mais même là, j'avais même pas passé cette réflexion-là dans ma tête. C'est rare, j'en passe, soit dit en passant. Mais ça a sorti tout seul, puis je me suis fait castrer. Clac!
Écoute, sur les ondes d'une autre radio, l'autre fois, j'ai pris une blague vraiment au premier degré sur les médias sociaux.
Ouais.
Il y avait, je peux pas croire que tu es en train de répéter ça. Il y avait Arnaud Soli qui faisait une vidéo supposément avec le fils de Justin Trudeau. Puis c'était pas le vrai fils de Justin Trudeau. Mais moi, j'ai vu ça 30 secondes et j'ai parlé de ça en ondes.
T'as dit Arnaud Soli.
Je suis morte en dedans après. Puis là, l'animateur était comme, non, c'est pas le vrai fils de Justin Trudeau. Puis j'étais comme... Moi, je vais y aller. Bye.
Ouais.
Je vais aller me cacher chez nous pour un mois. Au revoir.
C'est le danger de faire ça live.
Ben oui.
Quand tu es avec tes chums, il y a juste deux, trois de tes chums qui peuvent se foutre de ta gueule. Mais quand tu parles, je sais pas moi, LCN la fin de semaine, puis tu parles de la météo, il y a plusieurs personnes qui peuvent te voir live. Puis après ça, c'est rediffusé. Fait que si quelqu'un l'enregistre puis te dit
c'est
niaiserie,
fait, oui,
c'est clair.
Mon ami Victor dit toujours, moi, j'ai une marge d'erreur de 3 %. Je pense qu'il faut qu'on s'applique ça à nous-mêmes aussi. Puis même si je pense pas qu'on est à 3 %, ouais. Là, ouais. Avec votre niveau d'expérience, vous n'êtes pas à 3 %, mais
moi,
c'est vrai que là.
Mais c'est de le reconnaître aussi. Nous autres, on est très à risque parce qu'il y a toujours ce qui est rapide, ouais. La spontanéité, de donner la nouvelle tout de suite. Là. Mais, et de plus en plus, pour avoir commencé il y a 10 ans, on avait vraiment plus de temps. J'avais le temps de sortir du studio, d'aller vérifier. J'avais un gap de 5 à 10 minutes.
Là, ça va vite.
Et là, c'est... illico.
Puis ce qu'elle a dit à LCN en fin de semaine, c'est que la raison pour laquelle il pleuvait la fin de semaine, c'est parce que les gens prenaient leur voiture la semaine. Et elle voulait parler d'une étude qui est déjà parue, puis je me souviens d'avoir lu ça, mais ça n'avait aucun rapport, tu sais. Puis je l'écoute live, puis je me dis, mais non, tu peux pas dire ça comme ça, là, qu'il pleut la fin de semaine, parce que la semaine, on prend nos voitures, les gens, à la grandeur du
le
Québec,
vont se foutre de ta gueule. Le complot anticlimatique embarqué là-dessus. Mais cela dit, des fois, je remarque ça, étant donné, moi, je fais beaucoup de coaching en communication, puis des fois, les gens ont quelque chose dans leur tête, puis là, ils coupent des phrases.
Oui.
Puis là, il manque 3-4 phrases pour faire le lien entre deux idées. Puis ça donne ça. Puis ça peut avoir des résultats vraiment tristes, mais bon, c'est ainsi.
Ève-Marie Lortine avait fait une paupière, mais c'est à Pat de me rappeler ça. Elle avait dit, au lieu de dire le gars a été retrouvé dans le ravin...
Un enfant, en plus. Elle était tombé dans un ravin.
Elle a dit vagin. Ouais.
Non, mais elle avait été, là...
Ça avait été terrible.
Punie, là. C'était pas drôle, là.
Elle avait été punie.
Elle a fait le tour dans le coffre du char, là, médiatiquement. Là.
Terriblement.
Puis par les patrons. Puis c'était... Yannick, il y a quelques années, tu te fais raconter ça, là, c'était extrêmement strict sur la manière dont tu te présentes, ce dont tu as l'air à l'extérieur, des ondes, la terminaison, l'hésitation, le mauvais mot, la qualité de français. Malheureusement, là, il y a une recrudescence.
Ouais, c'est comme si on demandait aux gens d'être toujours parfaits, alors qu'en réalité, on ne l'est pas. On ne l'est pas avec nos enfants, on ne l'est pas avec nos conjoints, nos conjointes. Avec nos chums, on n'est pas parfait. Fait qu'à la télé, on s'attend à avoir des gens qui sont vraiment parfaits. Là. Valérie Plante qui disait, au lieu de tennis, elle avait dit tennis.
Moi,
j'avais trouvé ça cute. Là.
Avait dit, au décès de Kim Jong-il, avait dit Kim Jong-2.
Ouais.
Et elle avait perdu sa job. Je
me souviens très bien.
Ah ouais, c'était sévère.
Ouais.
C'était vraiment sévère.
Bon, on va essayer de ne pas perdre notre job aujourd'hui.
Non. Ben, moi, j'essaie à tous les jours. Fonctionne pas.
Il te rembauche à chaque matin.
Ben oui. Fiasco, ça clique. Oui, je pense qu'on peut dire que c'est un fiasco. Ce matin, ce qui est sorti à la une avec Québécois, c'est un article de Nicolas Lachance. Excellent journaliste, soit dit en passant. 1879 contrats supplémentaires cachés par la SAAQ qui ont été découverts par la commission Galland. Antonine, où est l'UPAC?
Ben, l'UPAC peut faire des enquêtes, mais on ne le saura pas nécessairement.
Okay. Et j'espère qu'ils sont plus sur leurs maudits passeports vaccinaux qui avaient été falsifiés à l'époque. J'espère qu'ils travaillent vraiment dans l'entourage de ce monsieur-là qui est mentionné à tous les jours, plusieurs fois par jour, comme quoi il y avait une grande influence puis que ses amis ont bénéficié de ses décisions. J'espère que l'UPAC est présente parce que visiblement, ce qui se passe là, c'est pas beau. Puis on va en avoir pour des années comme répercussions. Là.
On disait qu'il y avait des dépassements de coûts de 500 millions, mais on est en train de se rendre compte que c'était finalement la pointe de l'iceberg. Puis quand je disais ça ce matin, je me disais, c'est quoi l'histoire? T'sais, moi, je suis un peu formatée relations publiques, mais en relations publiques, on se demande toujours c'est quoi le fil narratif? C'est quoi l'histoire? Les journalistes aussi pensent beaucoup comme ça.
C'est à qui ça profite? À qui le crime profite?
Mais ça vient, ça va dedans. Là.
Ouais.
Toujours, avec un petit complot. Là,
c'est juste qu'il y a plus d'enrobage dans...
Bon, cela dit, quand je regarde l'histoire de Saclic, là, c'est très croustillant. Hein? La commission Galland, hein, ceux qui pensaient que c'était pas utile, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a beaucoup de stock qui sort de ça.
C'est utile pour l'information, mais moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait des gens avec des chaînes aux pieds, là.
Ben c'est ça,
on veut que
vouloir...
ça soit utile, même
parce que
dans
ça, il
n'y
a jamais ça, on dirait.
Non, ben c'est ça le problème. Puis il y en a qui se demandent si on n'est pas en train de dépenser trop d'argent, encore une fois, dans quelque chose qui, oui, nous ouvre les yeux sur bien des engrenages, mais à aucune conséquence.
Ben là, il est un peu tôt, par contre, parce qu'évidemment, ça va déboucher sur des recommandations. Il y a deux histoires là-dedans. Il y a celle de la corruption. Il y a celle, je dis corruption, mais c'est plus collusion, les copains-copains, on arrange les affaires pour que ça paraisse pas trop les dépassements de coûts, etc. Puis c'est important. Puis on se demande, quelques années après la commission Charbonneau, comment c'est possible qu'on se retrouve encore dans cette situation-là aussitôt. Il me semble, à un moment donné, il y a comme un choc qui se donne, puis pendant un bout de temps, le monde se check un peu, mais non, on dirait que non. Mais il y a toute l'histoire aussi de comment on gère nos contrats informatiques. Puis j'ai envie de dire, pas juste les contrats informatiques, nos infrastructures aussi, OK? Et honnêtement, plus vous grattez là-dedans et plus vous allez être découragé. J'entendais tantôt, vous jasiez avec Denis, puis il disait, il apportait son cynisme habituel. Là, je m'obstine souvent avec lui par rapport à ça. Mais ça rend très cynique, OK, de fouiller là-dedans. Tu te rends compte que le gouvernement a de la difficulté même à définir son besoin. On ne comprend même pas comment définir le besoin quand on a une transition numérique à faire, par exemple. Donc, ça nous rend extrêmement vulnérables à des compagnies qui veulent profiter, mais aussi à des individus comme ce qu'on est en train d'apprendre présentement. Puis, c'est correct de s'occuper de la partie collusion puis de crooks là, qui profitent du système, mais il ne faudrait pas non plus perdre de vue que toute la question des appels d'offres, des contrats, de l'incompétence gouvernementale en matière d'informatique, mais de génie en général aussi. Là, parce qu'on pourrait parler d'infrastructures routières. Toutes les compagnies privées vont vous le dire, ils n'ont même plus envie de répondre aux appels d'offres. Parce
ils ont
que,
peur d'être étiquetés.
Ben, pas juste ça, c'est que maintenant, en plus, on dit ben maintenant, vous allez être responsable des dépassements de coûts, les entreprises. Mais ils disent oui, mais il y a des dépassements de coûts parce que vous n'êtes pas bon.
Exact.
Vous n'êtes pas bon.
Je me suis fait raconter une histoire hier. C'est un de mes chums qui fait de l'excavation, pogne un contrat avec le gouvernement. C'était Hydro-Québec pour ne pas le nommer. Creuse une tranchée. Là, ça prend une inspectrice du gouvernement pour venir vérifier la tranchée. Puis eux autres, faut que la tranchée soit tant de creux puis tant de large. Puis là, la dame a dit, je vais être là demain matin. Fait que la tranchée est prête le lendemain matin. Les gars l'attendent. toujours pas là. Elle arrive à 15h l'après-midi, mais il y a eu une averse de midi jusqu'à 15h. Mm. Puis il y avait de l'eau dans la tranchée. Elle arrive avec en train de mesurer. Elle dit « Oui, mais là, ta tranchée n'est pas assez creuse. Il y a de l'eau dedans. » Il dit « Oui, mais si tu étais venu à l'heure que tu nous as demandé, tu aurais vu qu'elle était assez creuse. Puis nous, on aurait fait notre travail. » Mais là, elle dit « Je vais revenir demain. » Finalement, le lendemain, encore des averses. Fait que ça pouvait pas. Ça a pris 6 semaines de plus. Puis ils ont payé 45 000 $ de plus en temps pour les gars qui attendaient que l'eau s'enlève de la tranchée pour qu'ils puissent continuer à faire leur travail.
C'est un grain de sable.
6 semaines.
Dans le Sahara des exemples qu'on pourrait vous sortir. Là.
Puis c'est un bon montant.
Oui, mais malheureusement, je suis obligée de dire, comme le gars qui est passé à la commission Galant, ça pour vrai, ça n'arrête pas la terre de tourner. Quand on dit que 100 millions de dépassements, ils trouvaient que ça n'arrêtait pas la terre de tourner, imaginez un 45 000 $. Mais c'est comme ça. Tous les contrats, les appels d'offres, le niveau d'incompétence dans la machine, puis je dis pas que chaque fonctionnaire individuellement est incompétent, c'est pas ça que je dis là, mais on n'est pas capable de comprendre où un projet va s'en aller. Donc, comment on peut bien le gérer à partir de là? Ce qui va arriver, c'est que, surtout avec ce qui se passe avec sa clique en ce moment, là, il va y avoir un traumatisme là, par rapport à ça. Vous autres, là, mettons, vous êtes ministre le même matin, là, puis là, vous dites, là, je regarde ce qui se passe là, avec sa clique, là. Je pense que je vais demander à mon ministère qu'est-ce qu'on a de prévu, le côté transition numérique, contrat informatique.
Qu'est-ce qui s'en vient, oui.
La santé, là, entre autres. Là.
Puis ça pourrait être tentant de tirer à la plug, hein?
Aller chercher toujours les ressources externes aussi, ça me tanne. Des applications comme SaClick, ça existe ailleurs dans le monde. Là. C'est quelque chose, on aurait pu acheter l'application ailleurs dans le monde, la modifier pour nous au Québec, puis que ça fasse la job pareil. Pourquoi ça faut que ça vienne toujours de nous autres, de
on
A à Z?
On n'aura jamais l'expertise nécessaire pour tout faire en informatique. Au gouvernement, oubliez ça, parce que ce n'est pas attractif pour les meilleurs talents en informatique, parce que souvent, on travaille avec des plus vieilles technologies. Il y a beaucoup, beaucoup de compétition pour aller chercher les talents. Mais ça prend au moins le minimum de compétences pour être capable de bien faire les appels d'offres et de bien superviser les projets. Puis l'autre élément qui fait en sorte que ça chire tout le temps, ces projets-là, parce que là, ça clique, c'est tel que tel. Mais il y en a eu d'autres, là, ça gire. On pourrait nommer au fédéral
ça gire,
Phoenix.
Ça chire.
Phoenix, encore des rebounds de ça.
Ah oui, mais écoute. Puis, ils sont trop longs. C'est des projets qui sont étalés sur des années. Il y a des changements de gouvernement. Et quand tu finis par terminer ton projet, ben, ta technologie est déjà dépassée. Puis on les fait trop gros, les projets. Ça clique, là. Comment ils ont fait ça? Il fallait qu'en une semaine, ils transfèrent toutes les données de tous les services, de tout. C'est pas comme ça que les entreprises informatiques fonctionnent avec un client privé. Ouais. Jamais.
Il n'y avait aucun backup en passant.
Ça n'a aucun sens. Puis si vous parlez à des gens qui font ça dans des entreprises qui sont bien plus grosses que la SAC en passant, ils vont vous dire jamais on va fonctionner de cette
Mais
manière-là.
Mais on le fait. On le fait entre autres avec Patrick Mathieu régulièrement dans l'émission. Puis c'est une des affaires dont il parlait il y a 3 ans. Donc, au balbutiement de la présentation publique, mettons, parce que le travail avait quand même été pas mal
il
travaillé.
Il
levait le flag, puis il faisait publiquement, il faisait des articles, il allait avec ses contacts au gouvernement. Il y en a certains qui lui donnaient crédibilité là-dedans, puis qui disaient « Hey, t'as raison, ça va être un grand fiasco. » Mais il l'écoutait pas, donc, puis il est pas seul.
Puis plus le projet avance, moins le levage de flag, ça va changer quelque chose. Parce que là, t'es comme « Ouais, mais j'ai déjà dépensé 500 millions. »
Je comprends pas pourquoi ils veulent pas se remettre en question là-dessus. Il y a 10 ans, le Hackfest à Québec, il y avait des gens du gouvernement, des fonctionnaires qui allaient participer à ça, où ils allaient voir, puis tu te mettais à parler avec eux, puis on travaille en silo. Chacun des ministères travaille en silo. Il y a même pas de raccord entre notre job.
Puis on a créé un ministère qui est supposé de superviser la transition numérique. Puis on se souviendra que Éricard disait « Moi, je suis pas au courant, c'est pas mon problème. » Donc, on a beaucoup de problèmes là, avec ça. Là, c'est loin d'être réglé. Fait que, tout ça pour dire que oui, la collusion, oui, les gens mal intentionnés, mais l'argent qu'on jette dans le feu à chaque année, c'est pas, à mon avis, puis je suis pas l'UPAC et je suis pas l'AMF, mais à mon avis, c'est beaucoup plus au côté de la compétence et de l'incapacité de la machine à bien construire les projets en collaboration avec le privé. Ouais.
Les gros égos aussi à l'interne, là, visiblement, il y en a qui emmènent très, très large. Le conseil d'administration, c'est un conseil qui était visiblement incompétent, qui comprenait absolument rien de ce qu'on était en train de faire comme projet. Puis ceux qui faisaient des audits, donc les vérificateurs faisaient les audits, montaient l'information en haut. Puis
ça finissait là?
Lettre morte.
Oui, c'est ça. Puis ça, c'est le bout qu'on comprend moins. Moi, j'ai toujours pensé que c'était pas vraiment une histoire qui tournait autour du politique. Moi, vraiment, mon hypothèse, là, c'est qu'à un moment donné, les projets sont trop avancés. C'est comme si je venais rénover votre cuisine, elle est à moitié faite, il y a des tuyaux qui mènent nulle part, il n'y a pas de céramique sur le plancher. Puis là, je vous dis, ouais, finalement, ça va coûter plus cher. Qu'est-ce que vous allez faire? Non, on arrête tout? Tu recommences à zéro avec un autre? C'est ça le problème. C'est qu'il faudrait faire les projets par étapes ou tu as l'occasion, à un moment donné, de retirer tes billes ou de dire, OK, stop. T'sais, est-ce qu'on continue dans cette voie-là? Il faut faire des étapes pour y arriver. Puis j'ai peur un peu que les affaires de collusion viennent tellement, parce que c'est croustillant, ça brille là, comme nouvelle, mais je pense que l'UPAC devrait vraiment enquêter là-dessus. Mais j'espère qu'il va y avoir beaucoup de recommandations aussi sur la manière dont on fait nos contrats puis nos appels d'offres. Puis c'est sûr qu'il va y avoir une recommandation d'avoir plus de compétences. Ça fait des années, de toute façon, que tout le monde le dit. Mais comment on va faire pour y arriver? Parce que c'est pas attractif pour les talents d'informatique.
Non, puis tu me fais écouter un film où il y a une entreprise qui travaille avec le gouvernement pour fabriquer un appel d'offres. Ensuite, l'appel d'offres est envoyé. Puis c'est cette dite entreprise-là qui a travaillé dessus qui remporte la soumission par la suite.
Ouais, non, quoi, ça ne marche pas. Par contre, moi, ça fait... Là, je radote mes vieilles affaires. Là, je radote tout le temps cette affaire-là. Mais moi, je pense qu'on devrait avoir un comité composé de gens du secteur privé informatique et du secteur académique, donc des universitaires qui ne travaillent pas là, pour des entreprises qui font du profit.
À la fine pointe,
oui, okay. Puis qui révisent les appels d'offres en amont. Au lieu d'avoir un VG qui, 3 ans plus tard, dit « Ben voyons donc, ça n'a pas de maudit bon sens, cette affaire-là », d'avoir une révision par des gens qui, évidemment, s'ils bident sur l'appel d'offres, ben, ils se retirent. Là.
Mais est-ce que ça ferait un choc de coq, là, un combat de coq? Parce que ça, on l'a vu aussi dans ces projets-là.
Mais on s'en fout que ça fasse un combat de coq.
Je suis d'accord avec toi.
Mais ça devrait être public.
Ça peut arriver.
Et ça devrait être public.
Il faut que le contribuable soit gagnant. Dernier sujet, parce qu'il reste encore quelques minutes, Antonine. Le troisième lien, il y a eu un sondage qui est paru dans Le Soleil. C'est un sondage qui a touché à peu près quoi 929 personnes, donc presque 1000. 70% des citoyens dans la grande région de Québec qui appuient encore l'idée d'un troisième lien à Québec. Pour ce qui est du tramway, ça tourne aux alentours de 40%. Hier, le maire Marchand met encore le singe sur le dos de la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, en disant elle a de gros défis pour faire passer ce projet-là, alors que toute la population est derrière. C'est une situation qui est très particulière. Puis, il y avait René Lévesque qui disait « Méfiez-vous des gens qui prétendent aimer le peuple, mais qui détestent tout ce que le peuple aime. » Cette citation-là, je vais m'en souvenir toute ma vie, mais à chaque fois que j'entends parler de ces projets-là, qui sont désirés par la population, mais méprisés par les politiciens, il y a toujours René Lévesque qui me vient en tête. Ils vont faire quoi avec le troisième lien?
En fait, c'est qu'on n'a jamais défini l'acceptabilité ou le fait qu'un projet passe. Est-ce que c'est juste les gens de Québec ou tout le Québec, tout à coup, a droit de regard sur nos projets de transport dans notre région? Moi, j'ai toujours pensé que c'était aux gens de Québec de décider.
Oui.
Je suis pour le concept d'un troisième lien et je suis tannée que les gens nous mettent sur nos épaules tout à coup là, l'entièreté de la crise climatique. Puis
oui.
Que je trouve ça d'une grande hypocrisie. C'est pas vrai que de rajouter un pont ou un tunnel à Québec, là, c'est d'être contre l'environnement. C'est complètement faux. Puis on peut être pour le tramway et pour le troisième lien. Cela étant dit, je décroche un peu là, du troisième lien. Puis pas parce que j'ai changé d'idée sur le fond des choses. Moi, je pense qu'on doit vraiment réfléchir à la mobilité à Québec et que tout ne sera pas réglé par un tramway. Mais je n'ai jamais vu de projet qui, clairement, était faisable. Puis je trouve qu'il y a eu énormément de politique aussi sur la question du troisième lien. C'est rendu tellement polarisé que c'est comme s'il faut être ta carte de membre. Soit tu es pour le tramway, soit tu es pour le troisième lien, mais tu peux pas être nécessairement pour les deux. Il y en a pas de projet qui nous a été présenté qui se pouvait
ça
en termes financiers.
C'est ce qu'elle a mentionné en termes financiers, mais c'est ce qui s'en vient. Mais moi, je me dis, si ça se fait ailleurs, des beaux grands ponts ou des beaux grands tunnels, on doit être capable de le faire ici.
Mais tout est possible à un moment donné, mais ça dépend ce que tu es prêt à accepter.
Si c'est pour faire une grosse catastrophe comme ce qu'on est en train de voir avec le dossier Saclic, on peut-tu faire des appels d'offres qui feraient en sorte que toutes les entreprises du monde entier pourraient bider sur ce projet-là? Parce que ça a déjà été mentionné.
Oui, c'était l'intention.
Oui.
Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a de la politique là-dedans. Puis qu'on a l'impression que Mme Guilbeault, elle veut garder le projet vivant puis montrer que ça avance. Là, on est à l'étape des études. Puis réalistement, il n'y aura pas une pelletée de terre avant la prochaine élection. Là. On est-tu d'accord là-dessus?
Ouais. Oui. C'est impossible.
C'est impossible.
C'est impossible.
Ah, Yannick. Ah, je pensais que t'allais être... Je me disais, d'accord. On va gager quelque chose.
Je suis d'accord,
deux
mais...
Comme d'habitude.
Je pense que la CAQ, pour se sauver les fesses, parce que la Coalition Avenir Québec agissent de manière très hypocrite, là. Pour se sauver les fesses, ils vont s'organiser pour faire une pelletée de terre quelques semaines avant le début des élections.
Ah, OK. C'est ta prédiction.
C'est une prédiction. Mais ça, c'est parce que je déteste tous les politiciens.
Oui, c'est ça.
Fait qu'il y a toujours une mauvaise intention.
Exact. Dans on va aller le faire dans ma cour. Ça comptera pas, là.
Mais moi, je pense pas qu'il va y avoir une pelletée de terre avant la prochaine campagne électorale. Puis, tu sais, pour jaser avec
Antonine.
Pas mal...
François Legault annonce son départ. Hein. Savez-vous quoi? Je regarde ça, là. Je serais bien à la maison. Finalement, elle va m'accepter. Il va y avoir une course à la chefferie pour la Coalition Avenir Québec. Puis, à Québec, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'on va faire une première pelletée de terre dans quelques semaines. Fais la pelletée de terre. Tout le monde va pardonner à la CAQ. Tout le monde
un
va
voyage
voter
dans
pour
le
la
futur.
CAQ. Ah oui, c'est exactement Yannick. Ça qui va arriver. Non, on change d'idée comme on change de culotte au Québec.
Ça, c'est vrai. Puis les projets, les grands projets, c'est incroyable de voir à quel point ils n'avancent pas. Et justement, notamment parce qu'ils sont mal enlignés dès le départ. Puis là, cette fois-ci, moi, je suis encore prête à appuyer un projet de troisième lien. Absolument. Oui. Je suis absolument pas contre, mais j'ai hâte qu'on me présente quelque chose qui se peut, parce que c'est pas vrai qu'un pont par-dessus l'île d'Orléans, ça va fonctionner. Puis un tunnel à 10 milliards qui doit bien être rendu à 20 milliards maintenant, parce que, je sais pas, on dirait d'année en année, ça fait juste augmenter. À côté des autres ponts, on veut pas ça. Fait que finalement, présentez-nous quelque chose qui se peut. Puis moi, je vais être la première à crier go.
Antonine, même si tu t'en vas chez l'ennemi, je te souhaite de passer
ben, voyons,
super de belle après-midi.
Gérald. On l'aime, Gérald Pignan.
C'est le seul que j'aime là-bas.
Bon, bravo.
Fait qu'il est pas si pire.
Il n'est pas si pire. Franchement, après ça, tu as déjà dit ça.
Non, mais Gérald est professionnel. Je l'aime bien. Puis d'ailleurs, il y avait eu des problèmes avec François Legault dans le temps. Là. Puis quand François Legault, il a fait part de son mécontentement parce que Gérald avait eu des commentaires qui étaient...
différents de ceux, M. Legault.
Non, difficiles à l'égard de la Coalition d'un Québec. Et Gérard a retenu ses culottes. Puis moi, Gérard a retenu mon respect.
Ça. Bravo.
Exactement. Merci, Antonine. Salut. 13h01, s'il se passe quoi que ce soit sur la route, les amis, c'est le 418-971-1021. Merci d'être là. Mon nom, c'est Yann Marceau. Je t'accompagne jusqu'à 14h. Ce soir, 18h, je serai en compagnie du Doc Boucher. Donc, tous ceux qui aiment entendre parler de santé, de reprise en main, pour les gens qui ont... qui veulent rapetisser un peu. Les gens à 300 qui aimeraient ça descendre à 200. C'est légitime comme désir, ça. Ben, le Doc Boucher va nous parler de ça ce soir à 18h. C'est un gars que j'aime bien. Pat Raymond du podcast Financièrement parlant est avec nous. Salut, mon chum.
Allô. Comment ça va? Oui.
T'en es un, toi, qui as perdu du poids.
Ben oui. 354, ben malade. 8 ans plus tard, 215 en top shape. J'ai 25 ans.
Wow. Un top modèle. Ça a été quoi, toi, le déclic à 300 de dire « OK, moi, là, c'est fini, je veux maigrir? »
Ben, j'allais mourir.
OK.
Ouais, on t'avait donné ça. 300...
C'est une bonne raison.
À 354, à l'IUCPQ, moi, j'ai été opéré bariatrique d'urgence.
Ah, ouais.
Ouais, d'urgence, là, parce que je faisais pas 5 ans comme ça.
Mais comment...
Puis je comprenais pas pourquoi j'avais pris autant de poids. J'ai pris ça dans peu de temps. Dans 5 ans... J'ai pris au-dessus de 100 quelques livres.
Sans indiscrétion, une bariatrique d'urgence, le droit de parler là si tu veux, mais c'est comme on a vu ton dossier de santé, t'es ouais. allé chez le médecin, puis là, il t'a dit la semaine prochaine.
Ah, mais non, écoute, d'urgence, c'est comme 7-8 mois après. Là. Ouais. D'urgence, j'étais pas dans la salle à attendre. Tu sais, c'est quand même.
Mais t'as des étapes à faire.
D'urgence,
aussi.
Mais c'était pas 3 ans.
Exact.
C'était dans l'année qui suivait.
Tu as des étapes à faire avant d'arriver à la chirurgie.
Absolument. Et j'ai été réopéré parce qu'il y a eu des petites complications. Puis, bon, enfin, j'ai eu plein de démarches avec l'IUCPQ. Et je faisais presque partie de la chaire de recherche d'obésité morbide là, parce que j'étais beaucoup là. Pendant 4 ans, j'ai été énormément présent sur place. Tu sais, je connaissais les gens et tout ça. Puis j'ai appris beaucoup. Salutations au vieux Doc Biron. D'après moi, il est retraité. Là. À l'époque, il avait 74. Il aurait pris un break à un moment donné.
Doc
mais,
Biron, je ne sais pas s'il est retraité.
Doc Biron,
parce que
je le reçu. Tu sais de qui je parle?
Oui, je l'ai reçu en entrevue il y a de ça quelques temps. Puis il était toujours actif. Quoi qu'ils sont une couple. Là. Moi, ce qui m'avait impressionné, c'est qu'il m'avait expliqué comment il coupait l'estomac des gens. Moi, je pensais... Moi, j'étais un gars très simple dans la vie, là, tu comprendras. Fait que je pensais qu'il coupait ça à moitié. Tu sais, là...
le médecin, Marceau.
Il pogne l'estomac, il coupe, il raboute, merci, bonsoir. Mais c'est pas ça qu'ils font. Imagine-toi un gros pamplemousse, là.
Ouais.
Ben, il prend le pamplemousse, puis il coupe en forme de banane.
Exact.
Puis toi, tu te ramasses avec une banane plutôt qu'un pamplemousse comme estomac. Puis les premières semaines, c'est épouvantable. Vous ne pouvez pas manger pratiquement. Là.
C'est difficile. Si on parle de la gastrectomie partielle, effectivement, puis ça devient comme une banane Fait que c'est une forme de tube. C'est plus comme un réceptacle, là, c'est plus comme un tube. Fait que forcément, on a de la misère à manger trop parce que ça marche pas. Mais moi, on est allé encore plus loin parce qu'on a fait aussi le reste, là, la dérivation bariatrique par la suite, mais 4 ans plus tard.
Quatre ans
plus tard, parce que moi, la gastrectomie partielle, avec 5 à 10 km de marche par jour pendant 4-5 ans, au bout de ça, j'avais réussi à quand même éliminer une quarantaine de livres, mais je ne me suis pas fait opérer pour une quarantaine de livres. J'étais encore avec des problèmes de santé.
Ouais. Puis ta prise de poids rapide, sais-tu d'où ça venait?
Le stress! C'est cortisol!
C'est le stress qui t'a fait grossir? Oui,
parce que moi, je n'avais rien changé. Hey, je prenais 12 livres dans un mois, j'ai rien changé. Journal alimentaire, là, puis la seule chose qu'on pouvait modifier, c'est que telle salade, prendre la vinaigrette à part. Si on t'est rendu là, là. C'est comme... Non, mais tu sais, moi...
T'es rendu un lapin.
Je faisais pas... Moi, je comprenais pas. Je comprenais pas pourquoi il y avait une prise de poids, là. C'était anormal. Mais c'était relié beaucoup avec le stress. Au moment où j'ai fait le burn-out. Puis
ça, c'est fascinant. Là, puis Pat nous le livre en ce moment. Mais c'est tellement étudié. Je pense que c'est la chose dont on entend le plus parler dans les deux dernières années quant à la reprise de soi sur son poids. Là. Puis même les entraîneurs, méditation et autres, même si t'es pas ésotérique, ils disent « OK, fais pas de méditation si tu veux pas en faire. » Apprends à respirer comme il faut. Parce que toi, tu t'en rends peut-être pas compte, mais ton cortisol est dans le piton, puis ça t'empêche de perdre ton poids. C'est quelque chose de fascinant, puis qui va être déjà un peu le mal du siècle. Là. Tout ce qui est anxiété, stress, t'as pas besoin de ressentir ou d'être diagnostiqué pour que ton cortisol soit dans le piton, puis tu le saches pas.
Ouais. Moi, j'ai toi que je connais qui a fait l'opération. J'ai mon ami Sylvie qui est en Beauce aussi qui a fait l'opération. J'ai Louis Fréchette que tu connais, que tu as déjà croisé probablement.
Oui, je connais très bien Louis. Oui, le cycliste.
Exact.
Il est fin, lui. C'est une bonne personne.
Oui, vraiment. Lui, il a perdu beaucoup de poids. Puis aujourd'hui, il se tient en shape. Puis j'ai un autre de mes collaborateurs de l'époque. Lui, il s'était rendu compte qu'il pouvait plus. Il est allé magasiner pendant le temps des fêtes. Je te l'ai raconté. Il est allé magasiner pendant le temps des fêtes à Place Laurier. Il arrive où son char. Les deux chars qui sont à côté de sa voiture sont trop près de sa voiture, pas capable de rentrer dans son char. Fait que premier réflexe qu'il a, c'est « Regarde, me rentrer dans le coffre, c'est pas plus grave que ça. » Ça passait pas.
Oh.
Il a dit « OK, ça fait 10 ans que je vis de même, c'est terminé, je m'en vais me faire...
Ça a été ça son point.
Je m'en vais me refaire une santé. » Puis encore à ce jour, il est autour de 180.
Là. Ben, c'est ça, ben, regarde.
Il est à 500?
Moi, ça fait 4 ans, puis à tous les jours, puis je bougeais déjà avant. Et j'étais dans l'armée pendant 20 ans, donc tu sais...
J'étais en forme?
J'étais en forme. J'ai déjà été bien en forme. J'étais en forme, mais on dirait que je méritais pas ce fameux 120 livres de trop à l'aube de la cinquantaine à l'époque. Fait que t'imagines. Fait que je refusais de faire toutes les démarches. Fait que moi, je me suis acharné. Au début de la quarantaine, je me suis acharné à faire ce qu'il fallait. Et j'arrivais à perdre peut-être 30 livres, mais l'autre, qu'on me disait que j'avais des problèmes de santé, des arrêts respiratoires, de l'apnée du sommeil... puis là, ben, j'ai su que j'avais des problèmes de stress, fait un burn-out. Il est arrivé toutes sortes de réalités. Puis tout ce que j'ai fait, moi, vers la fin de la quarantaine, cette démarche-là, c'est dans le but qu'à 65, que je sois en forme. Parce que là, c'est bien beau perdre du poids, mais de toute façon, tout le monde le reprend, on dirait. Puis moi, j'ai dit pas vrai que je vais repeser 300 livres à 65, puis du monde de 400 livres au-delà de 65-70, il n'y en a pas vraiment. Il pète avant. Fait que là, à un moment donné, moi, je me suis pris en charge. Puis, j'étais toujours prêt à faire tout ce qu'il fallait. Moi, ça me dérange pas. Tu vas me dire, prends une pilule le matin, midi, soir. Je vais prendre une pilule le matin, midi, soir. Je suis zéro gourmand. J'ai toujours envie de bouger. Et je suis relativement en forme, même avec l'excès de poids que j'avais. J'étais relativement en forme. J'étais limite santé, parce que là, j'étais en train de tout perdre. Mais il fallait absolument agir puis faire quelque chose. J'avais besoin d'aide. Et voilà que là, cette démarche-là, c'est fait. Puis, on a fait l'autre partie 4 ans après. Il n'y a pas grand monde là, qui ont eu 2 opérations bariatriques en dedans de 4 ans. Et j'ai zéro, ou presque, j'ai pas de peau morte. Comment j'appelle ça? Pas des peaux mortes? Ben, des peaux...
flasques?
Des peaux flasques.
Parce que j'ai perdu ça sur presque 8 ans.
Non, t'es beau comme un top modèle.
Fait que là, aujourd'hui, à 55, top modèle peut-être pas.
Pat!
Mais très en forme, très en santé et psychologiquement aussi, Yann.
Depuis que je suis né, j'entends « l'argent fait pas le bonheur, l'argent fait pas le bonheur, l'argent fait pas le bonheur ». Puis pour avoir côtoyé des gens qui avaient beaucoup d'argent... des fois, je me disais, ouais, t'as peu, l'argent fait pas le bonheur.
C'est-tu l'excuse des pauvres? Moi, l'argent fait pas le bonheur.
Moi, ça me rend heureux de pouvoir.
Bon,
tu sais, je suis pas riche, là. Mais ça me rend heureux de pouvoir aller faire un voyage par année, tu sais. Puis ça me rend vraiment heureux d'aller dans le sud, puis relaxer pendant une semaine, puis me dire,